Écoutez, on y va. Hein. Voilà. Alors, écoutez, j'espère que je ne vais pas être trop longue. Donc, je dois vous parler de Lyon. Entre 1789 et 1870, c'est bien ça, hein, j'espère, parce que je sais plus où j'en suis, là, maintenant. Voilà. En principe, c'est ça. Hein.
Vous n'êtes pas, attendez, on va faire des essais. Parce que
ça va, là, comme ça? Bon, voilà.
Celle-là, tu l'éteins là-bas.
Non, ça va, c'est comme ça, là.
Ça va comme ça?
Oui, mais après, je vois plus personne. Voilà. Donc, en fait, oui. Donc, c'est ça. Donc, il y a forcément un rapport avec la Révolution. Et donc, je vais vous présenter Lyon. Je me répète un peu, mais il faut que je me remette dans le bain, donc c'est normal. Entre 1789 et 1870, si je parle trop vite, vous m'arrêtez un peu. Avant de vous présenter les changements qui ont eu lieu à la Révolution, notamment au niveau de la confiscation des couvents, parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'est-ce qui a changé à Lyon au point de vue monumental et urbain, l'urbanisme, à partir de 1789. Donc, en fait... Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je reprends mes notes, hein, mais on a à peu près... Vous avez un plan ici. C'est un plan de 1775. Bon, je ne pense pas que ça va nous commenter. Vous connaissez Lyon par cœur. Hein, voilà. Je vous rappelle simplement, là, vous avez la place Bellecour. Et là, vous devez avoir la place des Terreaux. Ça commence bien, voilà. Et là, vous avez le rempart, donc, de la Croix-Rousse. Bon, le Rhône et la Saône, hein, ça va, tout le monde connaît. Voilà, bon. Voilà. Et vous remarquez une chose quand même, c'est que sur ce plan, tout ce qui est rose, c'est ce qui est construit. Voilà, donc en fait... C'est une ville qui est extrêmement resserrée dans un territoire qui est petit. Et c'est une ville qui a quand même 120 000 habitants. En 1789, c'est la deuxième ville du Royaume de France. Voilà. Et donc, on est complètement engorgé, notamment entre la place Bellecour et la place des Terreaux, complètement engorgé. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? En 1789, vous avez une des premières lois vis-à-vis du clergé qui va être votée, c'est le 2 novembre 1789, vous la connaissez par cœur. C'est la confiscation des biens du clergé. C'est une loi qui a été suggérée par Talleyrand. Et en fait, l'idée, c'est Talleyrand, hein, voilà. Bon. Et l'idée, c'était de rembourser la dette avec les biens des biens du clergé. Voilà. Et voilà. Et je prends l'exemple de Lyon parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. En fait, dans une ville comme vous avez ici, vous avez énormément de couvents qui ont des grands territoires. Alors, bien sûr, ils ont leur bâtiment, ils ont leur chapelle, etc. Mais ils ont des grands territoires, ils ont des grands jardins, ils ont des vergers, ils ont même des champs de vignes. Voilà. Et en fait, il y a un certain ressentiment. Hein, parce qu'en fait, au XVIIIe siècle, il y a une espèce de crise des vocations. Donc, à la veille de la Révolution, les couvents sont beaucoup moins remplis qu'un siècle auparavant. Donc, en fait, vous avez quelques religieux dans des bâtiments qui sont faits peut-être pour 10 fois plus de... C'est la crise des vocations, quoi. On sait ce que c'est, hein, la crise des vocations. Voilà. Bon. Donc en fait, il y a une espèce de ressenti et beaucoup disent, mais pourquoi, dans une ville où il n'y a plus de place, pourquoi ne pas utiliser les biens des communautés religieuses? Donc en fait, la loi, cette idée, quand elle va être votée le 2 novembre 1789, elle ne sort pas comme ça d'un chapeau. Il y a longtemps qu'on y pense, voilà. Il y a longtemps qu'on y pense, donc en fait, ce n'est pas du tout, j'allais dire, quelque chose qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Il y a longtemps qu'on trouve quand même que le clergé a beaucoup de terrain en ville et que finalement, ça pourrait peut-être servir à d'autres. Voilà. Alors là, vous avez un autre plan qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il est beaucoup plus lisible. C'est un plan de Lyon en 1700. Ça n'a pas beaucoup changé. Entre 1700 et 1789, il y a quand même quelque chose qui a changé quand même, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Dans le plan que vous avez ici de 1775 exactement, pour être précise, ce plan, vous avez déjà le quartier des Brotteaux qui est amorcé, mais les événements de la Révolution vont stopper son développement, donc ce n'est pas pour nous aujourd'hui. Bon. Et puis, le deuxième quartier, c'est le quartier Perrache qui s'enlise au propre et au figuré. Voilà. Donc ce n'est pas non plus notre propos. Voilà. Donc, à la limite, ce plan... De 1700 va me servir énormément pour vous dire ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Parce qu'il est très lisible. Pourquoi? Parce qu'en marron, c'est tout le domaine bâti. En rouge, c'est toutes les chapelles ou les églises. Les églises ou les chapelles. Hein. On va partir du principe qu'une église, c'est une paroisse. Une chapelle, c'est une... J'allais dire, une chapelle, c'est pour un couvent. Tandis que l'église, c'est plutôt pour une paroisse. Mais c'est un édifice religieux. Voilà. Donc, tout ce qui est rouge, ce sont des chapelles. Tout ce qui est noir, ce sont les bâtiments conventuels. Mais il y a aussi, dans ce qui est noir, vous avez par exemple, ici, vous avez l'hôpital de la Charité, vous avez reconnu. Vous avez l'hôpital de l'Hôtel Dieu. Vous avez ici, par exemple, l'hôtel de ville. Voilà. Mais tout le reste, ce sont en fait des communautés religieuses. Et certaines, regardez déjà, vous avez déjà en ville des grands jardins. Des grands jardins dont je vais vous parler. Donc en fait, quand on va abolir quand on va confisquer les biens du clergé, eh ben Lyon, j'allais dire, va être très touché, extrêmement touché, et je vais vous montrer, vous présenter quand même assez rapidement, mais je vais quand même vous présenter, hein, bon, voilà, parce que je l'ai préparé, bon, voilà. Voilà, donc je vais quand même vous présenter ce que j'ai préparé, et donc je voudrais vous montrer un peu l'état des couvents à Lyon avant 1789. Parce que quand on se balade dans certains coins de la ville, eh ben, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne savez même pas qu'il y a eu un couvent avec une chapelle, des bâtiments conventuels, un grand claustral, un jardin. Il n'y a rien, il y a des endroits où il n'y a rien qui évoque les couvents qui ont vécu du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution pour certains. Donc c'est quand même important de le savoir. Voilà. Donc voilà, donc nous sommes ici. Alors vous avez un autre document qui est vraiment très, enfin, très intéressant. C'est la vue de Simon Maupin. C'est une vue, elle date de 1625. Vous voyez, je suis au 17e, je remonte. Parce que je vais commencer à vous présenter, rapidement bien sûr, mais je vais quand même vous les présenter, les installations religieuses du Moyen-Âge. Et sur ce plan, enfin, sur cette vue, pardon, on les voit très très bien, les installations religieuses du Moyen-Âge. Voilà. Bon. Alors, je vais commencer par vous montrer donc, les installations donc, du Moyen-Âge, et je vais essayer d'agrandir un peu le plan pour que vous voyez bien tout ça. Alors, j'espère que... ne va pas se bloquer. Eh bien, écoutez, le voilà. Voilà, bon, ça y est, on peut agrandir un peu. C'est quand même mieux, voilà. Et vous remarquerez comme c'est précis. Je ne parle pas de l'appareil, je parle de la vue. Voilà, c'est quand même particulièrement précis. L'établissement religieux le plus ancien de Lyon, qui existe toujours, mais ça, c'est une chance, vous l'avez ici, c'est pas encore bien ici, c'est ce qu'on appelle l'abbaye royale de Saint-Pierre-les-Nonains, ce qui est aujourd'hui le musée des Beaux-Arts. L'abbaye royale de Saint-Pierre-les-Nonains. C'est une abbaye royale, c'est une abbaye bénédictine, une abbaye de femmes. Donc en fait, l'abbesse est nommée par le roi. Hein. Elles sont très riches, elles sont très très riches. Hein. Alors quand est-ce que ça a été fondé? Oh, il y a longtemps, hein, voilà. On ne sait pas. De toute façon, les bénédictins, c'est quand même très ancien. Hein. Peut-être au 7e, peut-être au 8e siècle, voilà, tout simplement. Et bien sûr, les bâtiments que je vous montre vont être reconstruits, on va dire, pour accélérer un peu, au Moyen-Âge, voilà. Donc vous apercevez ici... Alors, que je ne me trompe pas, parce que là, moi, je suis un peu en rasant, hein, si on peut dire. Hein, voilà. Alors, où est-ce qu'elle est passée? Là, si je ne me trompe pas, vous avez l'église Saint-Nizier, vous la voyez ici? Voilà, l'église Saint-Nizier, voilà. Donc, c'est là. Donc là, c'est la chapelle du couvent Saint-Pierre, qui existe toujours, il y a les statues au musée dedans, d'accord? Voilà, la chapelle Saint-Pierre. Et vous avez à côté une petite chapelle qui n'existe plus, qui s'appelait Saint-Sornin ou Saint-Saturnin. Voilà, a été démolie plus tard. Voilà, je pense que ça a dû disparaître donc à la Révolution. Ça, c'est la grande abbaye. C'est la grande abbaye. Il n'y a pas encore d'hôtel de ville à cette époque-là. Nous sommes au Moyen Âge. Voilà. Ça, c'est la première église. Bon. Ensuite, est-ce que vous avez remarqué une très grande église? Une très très grande église. Alors, je reprends. Là, vous avez l'église Saint-Dizier, mais là, vous avez une très très grande église dont il ne reste strictement rien. Notre-Dame de la Platière. Notre-Dame de la Platière. Vous connaissez la rue du... On va faire beaucoup de circulation, on fait beaucoup de topographie lyonnaise aujourd'hui. Quand vous prenez la rue du Plâtre, Notre-Dame de la Platière, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ça, une église qui rappelle furieusement le clocher aîné, exactement, Notre-Dame de la Platière. C'est sans doute une petite recluserie avant l'an 1000, et cette recluserie est devenue une paroisse qui était desservie par des chanoines, les chanoines de Saint-Ruf. Saint-Ruf, c'est du côté d'Avignon, on va dire. Enfin bref, je passe, voilà. Et c'est une église qui a dû être reconstruite, on va dire, au Moyen-Âge, voilà. C'est une grande église, elle sert de paroisse. Donc vous avez Saint-Nizier, qui est la paroisse, et vous avez Notre-Dame de la Platière. Vous voyez comme elle est grande, quand même. Enfin, vous la voyez ici, là. Là, c'est... Vous savez, il y a un site très bien qui s'appelle Lyon en 1700. Et donc, vous avez des images absolument magnifiques. Donc là, j'ai piqué carrément... voilà, donc c'est vrai que ça... Voilà, donc j'ai piqué, voilà. Voilà, donc là vous avez la Saône dans le dos et vous arrivez vers Notre-Dame de la Platière. Il y a une petite impasse à gauche, est-ce que vous connaissez? Et regardez ce qu'il reste. Dans la petite impasse, on n'est pas dans le Vieux Lyon, on est rue de la Platière, vous avez une petite impasse à gauche avec une petite cour et voilà ce que vous avez. Voilà, on se croirait dans le Vieux Lyon, donc c'est un des bâtiments qui reste du prieuré de Notre-Dame de la Platière. Bon, ensuite, j'avance encore un peu. Alors, on passe un peu. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je recule, voilà. Je reprends ma grande vue de Lyon, parce que je vais vous montrer trois couvents extrêmement importants, dont il ne reste rien. Voilà. Bon. Rien, on verra ça, comment ça se passe. Voilà. Vous vous situez. Donc, on prend comme point de repère la place des Terreaux. Vous voyez, elle est là, la place des Terreaux. Voilà. Bon. Alors, vous avez vu, je vous redis, ça c'est donc la chapelle de l'abbaye donc Saint-Pierre. On est d'accord. Bon. Là, c'est donc Notre-Dame de la Platière, avec son clocher et ses quatre pointes qui rappelle donc Saint-Martin d'Aulnay. Voilà. Alors, dans l'ordre, je vais évoquer un couvent dont il ne reste pratiquement rien, les grands carmes des Terreaux. On a eu deux couvents de carmes. On a eu au XVIIe les carmes des Chaux, c'est-à-dire qui étaient installés aux anciennes archives départementales sur la colline en dessous de chez les Maristes. Voilà. Donc ça, c'était les carmes des Chaux, c'est-à-dire réformés, XVIIe. Mais au Moyen-Âge, vous avez un couvent de carmes pour hommes qui s'est installé à Lyon. Ces carmes, où est-ce qu'ils sont passés? Ils sont arrivés à Lyon en 1303 et ils s'installent dans un... Alors, où est-ce qu'ils sont passés? Les carmes. Alors, attendez-moi, je ne les vois plus, les carmes. Voilà, ici. Alors, ça, c'est la déserte. Voilà. Ils sont là, les carmes. Les voilà. Voilà l'église des carmes. Voilà. Ils sont situés à peu près... place d'Aubé-Robatel, ça vous dit quelque chose? Voilà. On pense que l'église était là. Vous avez la rue de la Martinière, vous avez la rue Terme, dans ce clos-là, mais un grand clos, ils étaient là. Voilà. Donc les carmes des Terreaux. Bon. Ensuite, vous avez à côté, un peu plus loin, sur le bord du Rhône, pardon, sur le bord de la Saône, bien sûr, une autre église. Alors où est-ce qu'elle est passée? Elle est ici, là voilà. La chapelle d'un couvent, c'est le couvent des Augustins. La chapelle du couvent des Augustins. Les Augustins sont arrivés ici, ils sont arrivés ici en 1319. Donc, grand lotissement, à peu près, grand tènement. Alors, ça correspond bien sûr à la Saône. Vous devez avoir ce qui correspond à peu près à la rue Flandrin, mais un peu plus, pour ceux qui sont du quartier, ben, il y en a. Vous devez avoir la rue Timonier, voilà. Vous devez avoir à peu près le nord de la rue d'Algérie. Vous voyez, un grand machin par là. Voilà. Bon. Donc, ils ont des bâtiments conventuels. Ils font construire une très belle chapelle gothique. Voilà. Cette chapelle gothique, elle est remplacée aujourd'hui par l'église Saint-Vincent, dont je parlerai tout à l'heure. Voilà. C'est à l'emplacement exactement. Voilà. Donc voilà, les grands carmes, on les appelle les grands carmes. Non, ça, ce sont les Augustins. On va y arriver. Bon. Et entre les Augustins et, comment s'appelle-t-il, les grands carmes des Terreaux, vous avez encore une petite chapelle. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Elle est là. Où est-ce qu'elle est passée? Elle est là. La petite chapelle. Les bénédictines de la déserte. Quand elles se sont installées, c'était le désert. Voilà. Les bénédictines de la déserte. Ces bénédictines de la déserte, leur cour, c'est à peu près la place, c'est même sûr, la place Satonnet, la cour de leur couvent, la place Satonnet. Et la rue Sergent-Blandan qui passe devant, leur chapelle longeait la rue Sergent-Blandan. À la limite, pour entrer sur la place Satonnet, il a fallu démolir la chapelle des bénédictines de la déserte. Elles ont un immense clos, les bénédictines de la déserte, elles ont un immense clos. Le clos monte jusque-là, et dans leur clos, elles ont les restes de l'amphithéâtre des Trois Gaules. Dans leur clos, elles ont les restes de l'amphithéâtre des Trois Gaules. Voilà, donc c'est quand même... voilà, alors où est-ce que j'en suis maintenant? Voilà, bon. Alors maintenant, le même plan. Donc ça, c'est toujours au Moyen-Âge, au 1200, 1300, 1400, vous pourrez vérifier les dates. Voilà, bon, mais il faut avancer un peu quand même. Bon, voilà. Alors, vous vous situez, vous avez ici donc la paroisse Saint-Nizier, qui est la grande paroisse de la Presqu'île. Parce que moi... Mon sujet, c'était donc la Presqu'île. C'est donc du rempart de la Croix-Rousse jusqu'au bout de la Presqu'île. Voilà. Donc, c'est comment Lyon a été engorgé et c'est un peu, j'allais dire, aéré avec les conséquences de la politique des révolutionnaires. C'est un petit peu ça, donc, mon idée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir, bien sûr, les deux grands ordres fondés au Moyen-Âge qui sont concurrents, les dominicains et les franciscains. Voilà. Et alors, donc, ils vont arriver... Eh ben, ils ont été fondés au XIIIe siècle, ils arrivent très très vite. Ce sont des ordres qui ont un succès extraordinaire au Moyen-Âge. Alors, tous les deux, ça ne marche pas très bien. Ils ont la même clientèle, donc ils se tapent toujours un peu dessus. Voilà, c'est vrai que ça ne marche pas du tout. Et en général, on s'arrange en ville pour les mettre loin l'un de l'autre. Regardez dans les villes, enfin à Florence, ces caractéristiques sont chacun d'un côté. À Sienne, chacun sur une colline, encore mieux. Voilà. Et à Lyon, on ne pouvait pas les mettre trop loin, mais ils ne sont quand même pas trop près l'un de l'autre. Donc en fait, je commence par le premier couvent, le couvent des Dominicains. Le couvent des Dominicains, ah ben, faut que je vous le montre, il faut que je descende un peu, le voilà. Bon. C'est la place des Jacobins. Parce que les Dominicains, ce sont les Jacobins. Voilà, c'est pas compliqué. Les Dominicains sont les Jacobins. Ils sont arrivés à Lyon en 1218, alors que l'ordre a été reconnu par le pape en 1216. C'est quand même très... ça va très vite. Et ils s'installeront ici, là où ils sont, et ils ne sont plus d'ailleurs, en 1235. Voilà. Et donc ils vont acheter un immense terrain, et sur ce terrain, ils feront construire, voilà, l'église qui s'appelle Notre-Dame de Confort, c'est-à-dire Notre-Dame de Réconfort. Voilà. Je laisse un peu tomber les dates. On est au Moyen-Âge, ça va plus vite. Et c'est pour ça que la petite place qui est devant s'appellera la place de Confort. Parce que le confort, c'est le réconfort au Moyen-Âge. Donc, l'église est dédiée donc, à la Vierge Marie, donc Notre-Dame de Réconfort. Donc, ils ont une église. Derrière, ils ont les bâtiments conventuels. Ils ont un très grand jardin. Voilà. Et c'est pour ça que les Dominicains, La rue Émile Zola s'appellera la rue Saint-Dominique. Saint-Dominique, la rue Émile Zola, c'est la rue Saint-Dominique, voilà. Donc les Dominicains. Alors j'ai quelques documents en plus, parce que j'aime bien mettre des documents en plus. Et je voudrais vous montrer... Ben non, c'est pas du tout ça, voilà. Bon. Alors, bon, ça passe plus, c'est pas grave. Voilà, donc je vais vous montrer ça parce que j'aime bien, voilà. Parce que les Dominicains, ils sont très riches, parce qu'ils sont soutenus par qui ? Par les banquiers italiens, voilà. Les banquiers florentins qui sont installés à Lyon vont soutenir, j'allais dire, les Dominicains. Et dans l'église des Dominicains, vous aviez un tableau magnifique. Ce tableau magnifique est d'un tableau d'un peintre florentin qui s'appelle Francesco Salviati. Et c'est un tableau qui a été commencé au XVIe siècle à Florence par un florentin installé à Lyon qui s'appelle Thomas Gadagne. Thomas Gadagne. Thomas Gadagne, c'est le neveu d'un autre Thomas Gadagne. Voilà. Donc, ce Gadagne, Thomas, donc, vous voyez, nous sommes déjà au XVIe siècle, mais c'est intéressant quand même. Vous avez un magnifique tableau, parce que dans l'église des Dominicains, il y avait des chapelles, dont la chapelle des Gadagnes. Et au-dessus de l'autel, donc, au-dessus de l'autel, elle était consacrée à Saint Thomas, parce qu'il s'appelle Thomas. Voilà. Et donc, Thomas Gadagne, numéro 2, celui du XVIe siècle, a commandé à Francesco Salviati, un peintre florentin maniériste. Les maniéristes, c'est les suiveurs de Michel-Ange, Raphaël et Léonard de Vinci, à la manière d'eux, donc on dit maniériste, voilà. Un superbe tableau qui représente l'incrédulité de Saint Thomas, voilà. Et Saint Thomas, qu'est-ce qu'il tient ? Non, c'est pas Saint Thomas, c'est le Christ, qu'est-ce qu'il tient ? Une bannière, et la bannière, elle est aux armoiries des Gadagnes, c'est tout. Enfin, c'est simple, voilà, bon, c'est simple, voilà. Voilà, voilà. Et donc, c'est le vrai tableau maniériste, on se bouscule un peu dans le tableau, dans le tableau maniériste... C'est un peu comme une photo, on sert pour que tout le monde soit dans le tableau. Voilà. Il y a des couleurs absolument magnifiques. Et ce tableau se trouve au Louvre aujourd'hui. Alors en principe, d'après un certain Gilles Chaumer, qui était un historien de l'art, j'étais en fac avec lui, etc., et qui a trop fumé, donc il a disparu, mais il était brillantissime, d'après ses notes et ses recherches, ce sont les Dominicains qui ont vendu ce tableau vers 1780 au Louvre, qui n'était pas encore ouvert, mais qui était en formation. Louis XVI et son directeur des bâtiments du roi cherchaient beaucoup de tableaux pour ouvrir le Louvre au public, une fois par semaine, on commençait tout doux. Voilà. Et donc, ils n'ont pas eu le temps d'ouvrir le Louvre parce que la Révolution est arrivée. Et donc, ce tableau, en principe, d'après donc Gilles Chaumer, il est donc rentré au Louvre en 1780, parce que les Dominicains avaient besoin d'argent. Voilà. Et d'après la notice du Louvre, c'est une confiscation révolutionnaire. Mais j'aurais tendance à... Préféré, j'allais dire, la thèse de Gilles Chaumer, voilà, qui est quelqu'un d'absolument donc remarquable. Deuxième couvent, j'allais dire, en dessous, c'est donc, vous avez reconnu, les Cordeliers. Je vous remonte la vue de Lyon. Où est-ce qu'elle est passée ? Elle est là. Voilà, voilà, donc je vais ragrandir ma vue de Lyon. Là, voilà, bon, voilà. Je vous remonte les Cordeliers. Alors, elle est là. Alors, vous avez vu, en fait, comment dirais-je, là, c'est la rue Grenette. Donc, c'est la rue Grenette. Donc, c'est vraiment, c'était une limite de Lyon. Après, Lyon s'est agrandi. Et donc, la rue Grenette, c'était la rue des Grains. Voilà. Bon. Grenette, Grains. Voilà. Bon. Donc, vous avez donc les franciscains, qu'on appelle les Cordeliers, qui s'installent, pareil, au XIIIe siècle, voilà, et qui vont construire ben, une grande église que vous connaissez, parce qu'elle est toujours là aujourd'hui. C'est l'église Saint-Bonaventure, bien sûr. Voilà. Donc, la grande église des franciscains Cordeliers. Et puis, il y a des bâtiments conventuels. Ils allaient jusqu'au Rhône, jusqu'à la rue Grenette, et puis ça descendait encore un peu. Et puis, il y avait une chapelle de pénitents, le Gonfalon, qui était des Lyonnais qui venaient faire pénitence, mais qui avait une chapelle absolument magnifique. Donc tout ça va disparaître à la Révolution, on va juste conserver donc, l'église, voilà. Bon, voilà pour mes couvents. Bon, j'avance un peu. Ça, la platière, vous l'avez déjà deux fois, donc on va passer un peu. Je reste dans ma vue, parce qu'il y a encore d'autres choses que je voudrais vous montrer dans les couvents donc, du Moyen-Âge, voilà. Alors, pendant que j'y suis, je cite simplement, vous avez la commanderie des Antonins. Donc il ne reste rien aujourd'hui. La commanderie des Antonins, ils se sont installés quand donc ? Ben, ils se sont installés, on va dire, non mais c'est même sûr, ils se sont installés en 1280. Alors il faut bien penser, il y a l'installation, puis après il y a les constructions, hein. Ça ne va pas tout de suite. Hein, voilà. Et donc ils auront une petite chapelle gothique qui donne directement sur le quai, ils ont un tellement qui est assez grand, des bâtiments conventuels avec une grande cour. Les Antonins viennent de Saint-Antoine, l'abbaye Saint-Antoine. Et en fait, ce sont des hospitaliers. Ils soignent une maladie qu'on appelle le feu de Saint-Antoine. Et le feu de Saint-Antoine, ce sont les épileptiques, en fait. On pense que ce sont les épileptiques qu'ils soignent. Voilà. Donc, les Antonins. Et puis, vous avez vu, ici, je vais descendre un peu, vous avez donc, derrière les Jacobins, vous avez bien situé maintenant, derrière les Jacobins, vous avez un autre grand couvent qui est en bordure de Saône. Un autre grand couvent, il y a écrit Célestin. Le couvent des Célestins. Le couvent des Célestins, ce n'est pas le premier à cet emplacement. Avant, il y avait les Templiers. Les Templiers, l'histoire des Templiers de Philippe le Bel, les Templiers. Et d'ailleurs, sur le plan, si vous regardez bien, il y a écrit « Port du Temple ». Voilà, donc il y a eu les Templiers. Les Templiers ont été installés à Lyon par le duc de Savoie. Le duc de Savoie, alors comme ils ont été supprimés en 1300, ils ont été installés en 1200, à peu près, en 1200. Donc le duc de Savoie a installé les Templiers sur les bords de la Saône, et en 1307, vous connaissez l'histoire, en 1305, 1307, ils ont été supprimés, Jacques de Molay a été brûlé avec le deuxième, le deuxième des Templiers, et Philippe le Bel s'est attribué le trésor des Templiers, mais à Lyon, ça ne s'est pas passé comme ça, enfin, ils ont été supprimés, et le duc de Savoie a récupéré son emplacement. Et un siècle plus tard, il va installer un autre ordre, les Célestins, qui sont une variante des Bénédictins. Ça a été fondé par Pape Céleste, voilà. Et donc, les Célestins vont s'installer là en 1400 et des poussières, voilà, et donc, ils ont un très grand tènement, vous savez, ils ont un grand jardin aussi, vous voyez. Donc, c'est le quai des Célestins aujourd'hui. Le quai des Célestins aujourd'hui, et ils vont en rester, non pas jusqu'à la Révolution, en fait, l'ordre va être supprimé en 1778, parce qu'en fait, c'est un ordre qui ne recrutait plus, il n'y avait plus de Célestins, voilà. Donc, on va supprimer l'ordre, et alors, ceux de Lyon, ils viennent d'un endroit que certains connaissent bien, ils viennent de Colombier-le-Cardinal, voilà. Donc, nous sommes en Ardèche, il y en a qui connaissent bien, il y en a qui hochent la tête, je vois, voilà, non, il y en a qui connaissent bien, voilà. Et donc, ça a été supprimé, et à ce moment-là, petite histoire, mais c'est toujours sympa les petites histoires, l'archevêque de Lyon a voulu récupérer le territoire. Le duc de Savoie de l'époque a dit, mais non, c'est mon ancêtre, c'est à moi. Il y a eu un procès entre l'archevêque de Lyon et le duc de Savoie, et c'est le duc de Savoie qui a gagné. Donc, le duc de Savoie a vendu tout le lot des Célestins à un promoteur immobilier. Et c'est la première opération, j'allais dire, immobilière au centre-ville, 1780, et ça a traîné jusqu'à la Révolution. Et cette opération, elle consistait avec un théâtre, qui sera bien sûr reconstruit, mais le théâtre des Célestins. Voilà, 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 voilà ce que je voulais vous dire. Bon, alors, ça, c'était pour le Moyen-Âge. J'ai encore quelque chose à vous dire pour le Moyen-Âge, oui. Alors, vous avez vu, oui, non, j'ai encore quelque chose à vous dire pour le Moyen-Âge. Je voudrais vous parler un peu. Alors, les Cordeliers, oui, vous avez vu l'église des Cordeliers, ben vous la connaissez par cœur. Mais c'est une vieille photo. En fait, elle était comme ça. Donc, en fait, bon, elle n'est pas en très bon état, mais elle était comme ça jusqu'aux années 1850 à peu près. Voilà. Et je vous expliquerai pourquoi elle n'est plus comme ça maintenant. Enfin, le vaisseau, c'est toujours pareil, mais la façade a été entièrement refaite donc au 19e siècle. Et ça, c'est une photo avant les travaux du 19e siècle. Je voulais vous montrer le bout de la presqu'île. Parce que je vais évoquer quand même des couvents très importants. Voilà. Donc on est en 1625. Hein. On est en 1625. Donc avec le plan. Mais je parle pour l'instant de ce qu'il y avait, si vous voulez, donc au Moyen-Âge. Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord. Hein. Bon. Bon, il ne veut pas grandir maintenant. Bon. Voilà, ça y est. Bon. Bon, allez, alors le bout de la presqu'île. C'est un peu un cul-de-sac. Hein. Parce qu'une fois qu'on est au bout de la presqu'île, on ne bouge plus. Voilà. Donc c'est un peu un cul-de-sac. C'est tranquille. Voilà. C'est tranquille. Voilà. Voilà, et ben vous avez l'abbaye Saint-Martin-des-Nez, voilà, qui est une très vieille fondation, et le bâtiment actuel a dû être, je crois, dédicacé par un pape en 1102-8, quelque chose comme ça, voilà. Donc début 12e siècle, voilà. Vous avez l'abbaye, voilà, l'abbaye des Nez. Bon, vous avez un côté, un couvent dont je ne parlerai pas, c'est le couvent Sainte-Claire, parce que je ne peux pas parler de tout. Voilà, et puis vous avez encore quelque chose qui est important pour le siège de Lyon. Vous avez un arsenal. Vous avez un arsenal. François Ier a fondé un arsenal. François Ier mettait à les 1525, mais quelque chose comme ça. Bon, voilà. A fondé un arsenal qu'on appelait l'arsenal de la Rigaudière. Et cet arsenal va exploser pendant le siège de Lyon. Et c'est pour ça que le quartier du 2e arrondissement, qui avait que quelques hôtels particuliers, tout ça, après, il va brûler et tout ça va quand même disparaître. Voilà. Bon. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'avance donc. Maintenant, nous arrivons au 16e siècle pour voir ce qui a disparu à la Révolution. Alors, le 16e siècle, qu'est-ce qu'il va se passer? Le couvent le plus important qui a été fondé au 16e siècle, et vous devinez que c'est le couvent des Chartreux, ce qu'on appelle la Chartreuse de Lyon. Là, vous avez un très, très joli, c'est un petit peu naïf, mais un très joli tableau qui se trouve donc dans l'institution des Chartreux et qui vous présente la Chartreuse juste avant la Révolution. Donc, elle a été fondée en 1584, cette Chartreuse. Et elle a été fondée par le roi Henri III. Et il l'a fondée, la fondation correspond le jour de la fondation de l'ordre du Saint-Esprit. Henri III, c'est lui qui a fondé l'ordre du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Chartreuse de Lyon, c'est la Chartreuse d'Ulysse Saint-Esprit. Et que si vous connaissez bien l'église Saint-Bruno, qui est l'ancienne chapelle de la Chartreuse, on voit encore, par certains endroits, des fleurs de lys avec la petite colombe du Saint-Esprit. Ce sont les emblèmes de la chartreuse de Lyon. Voilà. Alors cette chartreuse, voilà. Donc elle est fondée en 1584. L'église que vous connaissez, ça va durer un siècle les travaux. 1590-1690. Et en 1690, c'est même pas fini. Voilà. Bon. C'est même pas fini. Et en fait, il faudra attendre le 18e siècle pour qu'on finisse avec le dôme, la coupole, hein, et puis la décoration intérieure. Alors c'est un certain Jean Maignan, au 17e, qui a réalisé le plan de la chartreuse. Et au 18e siècle, tout ce qui concerne les derniers travaux du 18e siècle, c'est entre 1733 et 1739. Vous avez un certain Ferdinand de Lamons, hein, qui est un architecte de Lyon. Vous avez un certain Melchior Munet, un architecte de Lyon. Et un certain Jacques-Germain Soufflot, qui n'a rien à voir avec Lyon, mais qui s'est installé à Lyon et qui a fait beaucoup de choses à Lyon. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la chapelle. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le petit cloître qui est un petit peu caché, et vous avez le grand cloître. Voilà. Et cette chartreuse va être bien sûr confisquée, comme tous les bâtiments, à la Révolution. Il y a quelque chose qui est très intéressant sur ce document, c'est que vous avez la façade de la chapelle, qui n'est pas du tout comme ça aujourd'hui. La façade de la chapelle, c'est ce qui était prévu. C'est une façade qui est très 17e. En fait, elle n'a jamais été faite. Et la façade de la chapelle que vous connaissez aujourd'hui, c'est une façade qui a été faite dans les années 1880-90, quelque chose comme ça. Ce n'est pas du tout cette façade qui a été prévue là. Voilà, la grande fondation. Et comme c'est une chartreuse, il ne faut pas qu'elle soit en ville, il faut qu'elle soit un peu dans un endroit désert. Donc elle s'installe sur le plateau de la Croix-Rousse, pas très loin des remparts, dans un endroit qui est désert. Et la chartreuse, elle va quand même réussir. Combien est-ce qu'elle a d'hectares? Elle a 24 hectares. 24 hectares de terrain. Vous devinez, l'urbanisation du quartier, 24 hectares à la Révolution, c'est une aubaine. Voilà. Voilà, bon. Voilà, bon, ça vous connaissez, je passe. Voilà. Et maintenant, nous arrivons au XVIIe siècle, parce qu'au XVIIe siècle, c'est la plus grande période, c'est une nouvelle grande période de fondation de couvents. Oui, ça va. Bon. Et donc, je regarde un peu ma montre, mais ça va. Bon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au XVIIe siècle? Pour nous, les Français, c'est ce qu'on appelle la contre-réforme. La contre-réforme, c'est la reconquête catholique. Cette reconquête catholique, elle est en retard en France. Parce que, en fait, la reconquête, elle a commencé, si on peut dire, l'origine, c'est 1520. 1520, janvier 1521, Luther brûle la bulle que le pape lui envoie. Donc, c'est le signe de la séparation, j'allais dire, de ce qu'on appellera plus tard les protestants avec les catholiques. Voilà. Donc, c'est donc la fracture qui va entraîner d'autres fractures complémentaires, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? En 1545, vous avez un pape qui s'appelle Paul III Farnèse, qui va convoquer un concile à Trente, en Italie, mais c'est terre d'empire, parce qu'on voulait faire venir les protestants. Voilà. Le concile de Trente, pour se réunir avec les protestants. Les protestants ne sont pas venus, et les catholiques se sont réunis entre eux, et il y aura plusieurs sessions dans le concile de Trente. La première, c'est 1545, et la dernière, c'est 1563. Alors la première, elle a eu lieu à Trente, puis les autres, je ne sais plus où est-ce qu'elles ont eu lieu, mais en tout cas, plus ça allait, plus on se rapprochait de Rome. Voilà. Puisque comme les protestants n'étaient pas venus, finalement, le pape va préférer gérer ses sessions en partie à Rome. Et donc ça s'arrête en 1563. Et 1563, c'est ce qu'on appelle la contre-réforme, c'est-à-dire la reconquête catholique. Et cette reconquête catholique, elle va donner lieu à la naissance de nouveaux ordres religieux, les oratoriens, les jésuites, la visitation, etc. C'est extraordinaire. Et puis, les ordres anciens qui vont se réformer. Et le XVIIe siècle, comment dirais-je, mais en France, on est en pleine guerre de religion. 1559-1589, on a 30 ans de guerre de religion. Donc en fait, on a d'autres chiens à fouetter, si on peut dire, que d'organiser une reconquête catholique. En 1589, vous avez Henri IV qui monte sur le trône, vous allez avoir, je dirais, les Dignantes, si on peut dire, hein, quelques temps après, et ça va permettre, j'allais dire, donc, de souffler un peu, et la reconquête catholique, elle va commencer au XVIIe siècle. Voilà. Et à Lyon, vous avez une vingtaine de couvents qui s'installent, 20 couvents qui s'installent. À Lyon, c'est énorme, 20 couvents. Hein. Et je vais vous montrer où est-ce qu'ils s'installent, ces couvents. Il n'y a plus de place en ville. Hein. Donc en fait, on va regarder, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce plan, parce qu'il faut que j'avance un peu. Voilà. Voilà. Et donc, je vais vous montrer les couvents qui sont installés au XVIIe, parce que tous les couvents dont je vous parle, tous, sont supprimés, confisqués à la Révolution et sont vidés de leurs occupants. Tous, voilà. Pas compliqué, tous. Voilà. Donc, on va commencer chronologiquement. Moi, j'aime bien travailler chronologiquement. Hein. Voilà. Et je vais commencer par les champions de la contre-réforme, qui sont les jésuites. Voilà. On avait déjà des jésuites, de toute façon, à Lyon depuis 1565. Parce que, où est-ce qu'ils étaient les jésuites? Ils avaient repris le collège de la Trinité. Le collège de la Trinité, c'est le lycée Ampère. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lyon, c'est une ville d'imprimerie. Et, comment dirais-je, et à cause de l'imprimerie, il y avait beaucoup d'ouvriers d'origine allemande, parce que l'imprimerie est plutôt venue de l'Est. Voilà. Et ces ouvriers étudiants prenaient des cours dans un collège qui s'appelle le collège de la Trinité, qui avait été fondé par la mairie de Lyon. Et on s'était rendu compte au XVIe siècle qu'il y avait des idées subversives dans ce collège, c'était des idées protestantes. Et on s'est dit, il faut faire venir les jésuites. Donc on a fait venir les jésuites, et il y a des jésuites qui vont reprendre le collège de la Trinité en 1565. Donc ce ne sont pas les premiers. Les premiers, ce sont donc ceux de la Trinité. En 1600, combien ? En 1610, 11, quelque chose comme ça. 6, pardon, 1606. Vous allez avoir des jésuites qui vont venir à Lyon. C'est la maison professe des jésuites. Alors là, vous avez le quartier du 2e arrondissement, tel qu'il était, donc, quand sont arrivés les jésuites. Et alors là, c'est pas compliqué. Cette rue, c'est la rue Sainte-Hélène. Ça, c'est la rue Sainte-Hélène. Et à côté, où est-ce qu'elle est passée? Ça, c'est la rue Sainte-Hélène. C'est bien ça. Et la deuxième, oui, c'est bien la rue Sainte-Hélène, je suis désolée. C'est bien ça. Et la rue qui est ici, c'est la rue Salard. Voilà. Voilà. Nous sommes en 1600. Voilà, donc ça a un petit peu changé. Voilà. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Bon, voilà. Et vous avez la rue de la Charité, d'accord? Et vous avez une rue ici, là, voilà, qui s'appelait d'ailleurs la rue Saint-Jacques. Elle va changer de nom, elle va s'appeler la rue Saint-Joseph. Et c'est la rue Auguste-Comte aujourd'hui. Ça s'appelle la rue Saint-Joseph. Pourquoi? Parce que les jésuites vont acheter un grand terrain, ici. Voilà le terrain des jésuites, voilà. Ils sont mitoyens de D'Entresangles aujourd'hui, vous voyez, vous situez sans problème. Hein, l'hôtel de Cuzieux, c'est D'Entresangles. Donc juste à côté, vous aviez un mur et c'était les jésuites, voilà. Bon. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Hein. Bon, d'accord. Voilà. Et donc, ils vont construire une chapelle qui est dédiée à Saint-Joseph. D'où le nom de la rue qui va à Saint-Joseph, d'où la rue Saint-Joseph. Donc les jésuites s'installent là. Le deuxième couvent extrêmement important, c'est celui-ci. Tout ça. Deuxième couvent très important, c'est le premier couvent de la Visitation. Saint-François de Sales, Saint-Jean de Chantal. Le couvent de la Visitation s'appelle Sainte-Marie de Bellecour. Ce sont les visitantines de Sainte-Marie de Bellecour. Il s'installe là en quelle année? En 1617. Il a tout ça. 1617, voilà. Il va construire une chapelle qui est parallèle à la rue Salat, orientée vers l'est, bien sûr. Et il y a une toute petite maison, je pense que vous la voyez, il va grandir. Il y a une toute petite maison. Alors, là, voilà. Vous voyez? Alors, vous avez vu les jésuites. Donc ça, c'est la rue Saint-Joseph, la chapelle des jésuites. Vous avez deviné que lorsqu'on va prolonger la rue Auguste-Comte, on va donc démolir la chapelle des jésuites. Parce qu'elle est exactement au croisement de la rue Sainte-Hélène et de la rue Auguste-Comte prolongée. Voilà. Bon. À côté, voilà la rue Salat. Voilà la rue Salat. Donc les visitandines, c'est le premier couvent. Elle s'installe là. La rue Saint-François de Sales, d'accord? Là, vous avez donc la rue Auguste-Comte, la rue Sainte-Hélène et la rue Salat. Il y a une petite maison là. C'est dans cette petite maison qu'en 1622 va mourir Saint-François de Sales. Il est mort dans la petite maison dite du jardinier. Donc il est mort à Lyon. D'où la parole Saint-François de Sales qui sera construite au 19e en souvenir du décès de... Voilà. Et bien ce couvent de la Visitation, qui est quand même le premier couvent de Lyon, il n'y a rien, il ne reste rien, rien, si ce n'est le nom de la rue Saint-François de Sales. Voilà. Bon. Voilà. Bon, peut-être de la charité on passe. Voilà. Et maintenant, voilà. Donc tous les couvents qui arrivent, ils vont investir un endroit où il n'y a rien, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pentes, c'est-à-dire de la place des terreaux jusqu'au rempart de la Croix-Rousse. Voilà. Et là, vous avez le plan, je fais référence à lui parce que je l'aime bien, c'est le père Bobichon, qui le connaissent très bien. Ça, c'est un historien, le père Bobichon. Voilà. Et ça, c'est le plan du père Bobichon. Voilà. Donc en fait, il a fait ce plan et toutes les petites croix, ce ne sont pas des cimetières, non, toutes les petites croix, ce sont les terrains des communautés religieuses. Voilà. Voilà. Donc vous avez vu que ce qu'on appelle les pentes jusqu'à la Chartreuse, qui est déjà installée, ça va être, je veux dire, acheté et utilisé par les communautés religieuses. Donc vous devinez qu'à la Révolution, tout ça est confisqué, et vous devinez comment est-ce qu'on a urbanisé les pentes au XIXe siècle, tout simplement. Voilà. Alors, je vais commencer. Alors, je commence. Voilà. Bon. Alors, je vous cite les rues, parce que si vous connaissez bien, mais je vous les rappelle quand même. Hein. Alors, on va commencer par la Saône, ça, tout le monde connaît, il n'y a pas de problème. Bon. On prend des points de repère, pour commencer. Hein. Alors, dans les points de repère, bon, il faut que je me repère moi aussi. Alors, les carmes, etc. Place des terreaux, ok? Ça, c'est la place des terreaux. Je ne reparle pas des carmes. Enfin, je vous le dis quand même, il y a les carmes, d'accord? Il y a les Augustins, d'accord? Saint-Vincent. Et là, vous avez donc Notre-Dame de la Déserte, place Satenay. Voilà. Bon. Donc, ceux, ils sont déjà installés, on n'en parle plus. Là, la grande rue qui monte s'appelle la montée des Carmélites. D'accord? Après, la deuxième rue qui monte ici s'appelle la Grande Côte. D'accord ? Et la troisième rue qui monte ici s'appelle la Côte Saint-Sébastien. D'accord ? Et à un moment, elles divergent et ça s'appelle le chemin des Fantasques ou la rue des Fantasques. D'accord ? Bon. Et puis, où est-ce qu'elle est passée ? Ma petite croix. Alors, ma petite croix, où est-ce qu'elle est passée ? Ah ben, on la voit pas. Bon, on la verra sur un autre plan. Bon, bref, tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, je commence. Prenons la montée des Carmélites. Vous avez deux couvents qui s'installent. Premier couvent, que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi je l'aime beaucoup, mais je l'aime beaucoup. Bon. Le voilà. Le couvent des Carmélites. Vous avez situé les Carmélites ? Voilà. Vous voyez, là, tout ça, elle s'installe là. C'est un couvent qui est extrêmement intéressant. Les Carmélites. Bon. Elles sont installées par un protecteur. Le protecteur, c'est le gouverneur de Lyon. Nous sommes au XVIIe siècle. Et nous avons une famille qui va régner du XVIIe à la fin du XVIIIe. C'est la famille des Villeroy. D'abord les Neuville, puis après, duc de Villeroy, pour l'instant. Voilà. Donc, le premier gouverneur de Lyon s'appelle Charles de Neuville. Charles de Neuville, d'Alincourt, si vous voulez, Charles de Neuville d'Alincourt, c'est le premier, notre premier gouverneur de Lyon. Il a épousé une certaine Jacqueline de Harlay. Et tous les deux, ils vont fonder le couvent des Carmélites à Lyon. Ce couvent des Carmélites, hein, il a été fondé, hein, voilà, bon. Il a été fondé très tôt, hein, chapelle des Carmélites, je vais vous dire la date, voilà, il a été fondé en 1616, c'est important, en 1616, et il a été fondé par des Carmélites qui viennent d'un couvent de Paris, il y a beaucoup de couvents de Carmélites à Paris, mais le couvent des Carmélites de Paris, celui qu'ils vont choisir, c'est un couvent qui est très important, c'est le Carmel de la Visitation de la rue Saint-Jacques, qui n'existe plus, qui se trouvait en face de l'abbaye du Val-de-Grâce. Et ce Carmel de la rue Saint-Jacques, il a été fondé par Marie de Médicis. Marie de Médicis, elle a fait venir des Carmélites du Carmel de Sainte-Thérèse d'Avila, qui est morte quand même déjà depuis longtemps. Hein. Mais ce sont des Carmélites qui viennent d'Avila, du Carmel d'Avila. Ces Carmélites d'Avila, elles ont fondé le Carmel de la Visitation de Paris. Et de ce Carmel de Paris, il y a des Carmélites qui viennent à Lyon. Elles vont fonder un Carmel. Ce Carmel est fondé en 1616. Il va durer jusqu'à la Révolution. Et elles... À la Révolution, elles sont encore 30 carmélites. Donc c'est un carmel qui marchait très bien. Et ce carmel est entretenu par Charles de Neuville de Villeroy et par son fils qui s'appellera Nicolas de Neuville, premier duc de Villeroy. Hein, voilà. Et je vous montre ici, regardez, je vous montre ce qui a disparu, mais ce qui était magnifique, la chapelle qui va être construite dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, cette chapelle superbe. Vous avez ici la façade de la chapelle qui donnait sur la montée des carmélites. Et vous avez à droite le plan de la chapelle. Et dans le plan de la chapelle, vous avez l'église, vous avez le chœur des religieuses, ce sont des carmélites, elles sont cloîtrées. Et vous avez à gauche la chapelle des Villeroy. Parce que les Villeroy vont se faire enterrer là jusqu'à la Révolution. C'est la chapelle, enfin, c'est le mausolée des Villeroy. Donc vous devinez que cette chapelle va être entretenue et l'église par les gouverneurs de Lyon. Voilà. Et je vous montre un autre tableau, parce que moi j'aime bien. Tableau magnifique. Absolument magnifique. Alors, Charles de Neuville de Villeroy et son épouse Jacqueline de Harlay ont fait venir donc les carmélites. Bon. Après Charles de Neuville, vous allez avoir son fils qui s'appelle Nicolas de Villeroy. Nicolas de Villeroy, c'est le protégé de Mazarin. Protégé de Mazarin. Donc, il est gouverneur de Lyon, je crois, en 1646. Mais il n'a pas le temps de venir à Lyon. Voilà. Parce qu'il est retenu à la cour. Il est maréchal de France, premier duc de Villeroy. Et en même temps, il a été nommé gouverneur du petit Louis XIV. Voilà. Et vous allez avoir un autre Villeroy, c'est son fils d'ailleurs, qui sera gouverneur du petit Louis XV, duc de Villeroy. Voilà. Donc c'est une famille qui trouve que c'était plus drôle d'habiter à la cour que d'habiter à Lyon. Voilà. C'est moi qui le dis. Hein. Voilà. C'est peut-être une invention. Voilà. Bon. Voilà. Donc en fait, il n'a pas le temps de venir à Lyon, mais il va entretenir quand même magnifiquement la chapelle. Et c'est lui qui a commandé ce tableau. Ce tableau, c'est une descente de croix absolument magnifique de Charles Lebrun. Voilà. Et ce tableau de Charles Lebrun, cette descente de croix, où est-ce qu'elle est passée ? La voilà. Donc on avance un peu, elle a été commandée en 1679 à Charles Lebrun, et donc il va la commencer, il va mourir entre temps, il ne la finira pas, ce seront ses élèves qui vont la finir, mais comment dirais-je, quand Colbert va mourir, c'est Louvois qui prend sa place, parce qu'ils ne s'entendaient pas bien tous les deux, et Louvois va réquisitionner le tableau pour la chapelle de Versailles. Donc en principe, ce tableau n'est jamais venu à Lyon. Il a été commandé pour la chapelle de Lyon des Villeroy, il n'est jamais venu à Lyon, puis après il a disparu dans les réserves. Et finalement, début 19e siècle, il a été attribué au musée de Rennes. Il se trouve au musée de Rennes. Mais ce qu'il y a de curieux, mais comme ma petite lampe elle est bloquée sur le livre, je ne peux plus ouvrir le livre, mais ce qui est quand même curieux, c'est que vous avez une description de Lyon par un certain André Clapasson de 1745, il y en a qui connaissent, et Clapasson, il a décrit la ville de Lyon et il dit, dans la chapelle des Carmélites, sur l'autel, il y a une descente de croix de Charles Lebrun. Voilà. Voilà, donc il y a un problème au niveau de cette descente de croix, je voulais vous la montrer parce que c'est quand même intéressant. Et dans cette chapelle, il y avait donc la chapelle, alors, la descente de croix, elle était au-dessus de l'autel principal. Et dans la chapelle des Villerois, il y avait des mausolées. Il y avait des mausolées, il y avait donc Jacqueline de Harlay, il y avait Charles de Neuville, il y avait donc, comment s'appelle-t-il, Nicolas de Villeroy, hein, donc le fils, le gouverneur du petit Louis XIV. Hein, et voilà son mausolée. Ce mausolée a été fait, il est mort en 1685, Nicolas de Neuville, de Villeroy, et donc tout de suite on a dû faire ce mausolée. Il a dû être dessiné par Thomas Blanchet, le grand peintre de l'hôtel de ville, qui était aussi, bien sûr, grand dessinateur. Et c'est un sculpteur qui s'appelle Bidot, je crois, qui a dû réaliser donc, le mausolée. Il ne reste pas une pierre, pas un caillou, pas une plaque de ce couvent. Donc je voulais vous montrer quand même des choses magnifiques qui ont disparu. Voilà. Alors, en dessous des... Alors j'arrête pour les carmélites, parce que je ne vais pas parler des carmélites pendant tout le cours. Hein. Voilà. Mais en dessous des carmélites, vous avez un autre ordre qui s'installe. Vous voyez, elles sont là, les carmélites. Les Annonciades bleues célestes. Mais oui, c'est joli comme nom. Ça existe toujours comme ordre. Hein. Les Annonciades bleues célestes. Parce qu'elles ont, elles ont un vêtement bleu, bleu pâle. Voilà, bon. Elles s'installent en 1624. Et elles sont chassées à la Révolution. Et c'est le seul couvent qui est redevenu un couvent. Parce qu'au XIXe siècle, les Sœurs Saint-Charles vont s'installer dans ce couvent. Les Sœurs Saint-Charles. Donc les Sœurs Saint-Charles, elles ont la vieille chapelle, le claustral, hein, et puis vous savez, elles ont eu la fameuse clinique Saint-Charles, voilà, qui était derrière jusqu'à pas si longtemps que ça, finalement. Pas très très longtemps, quand même, voilà. Donc voilà, c'est le seul couvent, donc, qui, on peut dire, qui peut évoquer un peu les couvents, donc, d'avant la Révolution. Voilà, je passe un peu, voilà, bon. Ensuite, vous avez ici, voyez, nous sommes, j'ai pas oublié les où est-ce qu'elles sont passées? Alors j'ai oublié, vous savez, le couvent le plus important, voilà, où est-ce qu'il est passé? Ben les voilà, je les ai oubliés. Les Visitandines de Sainte-Marie-des-Chênes, le troisième couvent de la Visitation. Alors le premier couvent, c'est celui de la place Bellecour. Le deuxième couvent, j'en parle pas, c'est celui de l'Anticaille. Les Visitandines de l'Anticaille, il y en a qui connaissent très bien le centre, j'allais dire, écuménique, voilà, entre autres. Et le troisième couvent, Sainte-Marie-des-Chênes. Voilà, elles sont où? Elles sont là, et il y avait autrefois en face les chênes qu'on tirait au Moyen-Âge dans la Saône. Donc elles achètent un grand terrain, et vous voyez leur terrain, voilà. Elles avaient 6 hectares, je crois. Elle s'installe là, en quelle année? En 1641. C'est le troisième couvent. Il y avait quand même trois couvents de Visitandines, c'est quand même énorme. Voilà. Bon. Ensuite, on descend. On descend, et vous allez avoir un autre couvent, un peu plus petit, mais pourquoi pas, hein, les Bénédictines de Saint-Benoît, qui s'installent là. Ça correspond exactement 31, 36 quai Saint-Vincent, et il en reste quelques morceaux, vous connaissez, voilà. Bénédictine de Saint-Benoît, j'avance un peu, voilà. Bon. Voilà. Et puis maintenant, on va aborder... J'allais dire le cœur de ce qu'on appelle les pentes. Le cœur des pentes, voilà. Alors, je crois que j'ai autre chose de mieux. Voilà. Oui, alors aussi, regardez, voilà. Ça, c'est un document qui vous montre les Visitandines de Sainte-Marie-des-Chênes. Donc, vous avez la Saône. Vous avez en face, vous repérez ce qu'on appelle Pierre-Cise, notre Bastille lyonnaise, d'accord, hein, Pierre-Cise, voilà, Bastille lyonnaise. Là, vous avez la Saône. Et voilà le couvent de la Visitation. Vous avez, donc c'est un très grand couvent. Et vous avez la chapelle qui ouvre directement sur le, on peut dire sur le quai. C'est pas bien large le quai, mais sur le quai. Et vous voyez au-dessus de la chapelle, une espèce de porche assez jolie. Je vous en parlerai tout à l'heure, ce porche. Et on aperçoit un peu une espèce de coupole, vous voyez? Voilà. Donc ça, c'était la chapelle. Voilà. Et en fait, il reste quelques bâtiments conventuels. Donc vous avez un grand commun que j'entendrai tout à l'heure, je vous montrerai. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'école des Beaux-Arts. Qui donc, c'était les anciennes subsistances. Et l'école des Beaux-Arts. Donc ça, c'est un bâtiment qui a été conservé au XIXe siècle, un bâtiment conventuel. Il vous reste il y a des grandes salles, il y a un bel escalier, et puis il y a un beau départ d'escalier, puis il y a un bel escalier, vous voyez. Donc c'est quand même un très beau bâtiment, voilà. Bon. Et maintenant, on va s'intéresser aux pentes. Enfin, vous me direz, on est déjà dans le quartier, voilà. Bon. Alors, on va reprendre les rues. Voilà. Donc là, vous avez cette rue qui monte, donc la côte des Carmélites, d'accord? Bon. La rue qui est à côté, c'est ce qu'on appelle la Grande Côte. Et la rue qui est ici, voilà, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais. On appelle la côte Saint-Sébastien. Et puis là, vous avez une fourche, le chemin des fantasques. Voilà, d'accord? Et là, vous avez une petite croix. Et bien, c'est la croix Paquet. Et oui, la croix Paquet. Voilà. La croix Paquet. Donc, la rue s'appelle la rue de la croix Paquet. C'est tout. C'est pas très compliqué. Donc là, vous prenez la rue du Griffon. Et quand vous êtes ici, vous descendez par la rue de la Croix-Paquet. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez comme rue? Il n'y en a pas 150. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous avez une rue qui s'appelle la rue Néret aujourd'hui, et qui s'appelait, curieusement, autrefois la rue du Bon Pasteur. Et aujourd'hui, la rue du Bon Pasteur, c'est celle-ci, mais je ne vais pas trop vous brouiller, hein, parce que ça fait déjà beaucoup de choses. Voilà. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, c'est cette rue. Cette rue, elle est très connue. C'est la rue René Lénaud. C'est la seule rue du quartier qui traverse, vous avez bien remarqué. Il n'y a que des rues qui montent sur la colline. Il n'y a pas beaucoup de rues qui traversent. La rue René Lénaud, c'est une très vieille rue, donc il y a des vieilles maisons, très vieilles maisons. Et elle s'appelait la rue de la Vieille Monnaie, autrefois. Il y avait une monnaie royale qui était installée, d'où la rue de la Vieille Monnaie, et elle s'appelle aujourd'hui la rue René Lénaud. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire? Eh bien, maintenant, on va regarder, comment dirais-je, les couvents qui s'installent. En 1616, vous avez un très grand couvent qui aura un très très grand tènement, pratiquement tout ça. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Vous savez, moi, je regarde là parce que je suis sur la tranche. Voilà. Oui, c'est bien ça. Oui. Où est-ce qu'il est passé? Je regarde bien. Mais non, je me suis trompée de rue. C'était la déserte. C'est là, voilà. Ici, là, vous voyez là, il y a deux machins rouges. Les oratoriens s'installent à Lyon en 1616 et ils s'installeront ici, là, à cet emplacement. Ils vont s'installer en 1642. Ils sont rue de la Vieille Monnaie. Ils construisent une chapelle. Cette chapelle aura une belle façade au 18e. C'est l'église Saint-Polycarpe. D'accord ? L'église Saint-Polycarpe, c'est la chapelle du couvent des oratoriens. Voilà. Donc les oratoriens s'installent là. Bon. Ici. Ils sont donc rue de la Vieille Monnaie. Ici. Voilà. Ici, exactement. D'accord ? Bon. Vous avez du mal sur la tranche, là. Vous avez un couvent qui va s'installer ici en 1619. Ce sont des cisterciens réformés. On les appelle les feuillants. Les cisterciens réformés, on les appelle des feuillants. Ils doivent être riches, les feuillants, parce qu'ils vont construire une chapelle, ils vont construire un très beau couvent, et regardez, voilà l'entrée, donc vous êtes sur la rue de Toux, qui est une petite rue un peu en impasse, on y vient par l'ancienne rue de la Croix-Paquet, d'accord, voilà, et vous êtes dans la cour du couvent des feuillants, vous avez le beau bâtiment du 17e, et vous connaissez peut-être le plus bel escalier de Lyon, aussi beau que celui de Cormatin, hein, château de Cormatin. C'est l'escalier du couvent des feuillants qui date de la moitié du 17e siècle. Voilà. Les feuillants s'installent là, donc en 1600, donc 16, voilà, et puis 1619, etc. Et puis font leurs travaux, etc. On passe. Voilà. Bon. Je reviens sur mon plan, parce qu'un troisième couvent s'installe. Alors, vous avez Saint-Polycarpe, voilà. Ici, vous avez un couvent. Il commence par la rue Sainte-Marie, la petite rue Sainte-Marie des Terreaux. Voilà, il a un très grand clos. Ce sont les Capucins. Les Capucins. Il y a un autre couvent de Capucins qui s'est installé à Lyon au XVIe siècle. Il s'est installé à peu près à l'emplacement de la gare Saint-Paul. Voilà. Et pour les différencier, il y a les Capucins et les nouveaux qui arrivent au XVIIe siècle, on les appelle les Capucins du Petit Forêt. D'où la place du Forêt, la place ronde que vous avez dans le quartier. Voilà. Parce qu'il y avait une propriété qui s'appelait le Petit Forêt, Jean de Forêt, etc. Donc, Capucins du Petit Forêt. Les Capucins s'installent là. L'entrée de leur couvent, elle est 1 rue Sainte-Marie des Terreaux. Et je vous montre l'entrée de leur couvent. Là, voilà. Vous voyez, vous êtes 1 rue Sainte-Marie des Terreaux. Donc, vous avez une petite rue, j'allais dire, qui part des Terreaux, toute petite, puis au bout, il y a des escaliers. Vous montez les escaliers, vous trouvez sur une petite placette. Et bien, le 1 rue Sainte-Marie des Terreaux, ça a été un peu transformé, c'est l'entrée du couvent des Capucins. Vous voyez, ça fait un peu 17e, ce que je vous montre. Bon, ça a été très transformé. Voilà. Et vous avez des escaliers, et vous montez sur une cour. Et bien, le long, vous aviez la chapelle. Ils ont un très, très grand jardin. Bon, voilà. Et à côté, va s'installer un couvent de femmes, hein, Ursuline, éducatrice. Voilà. Donc on a, où est-ce qu'elles sont passées? Donc elles sont là. Donc là, vous avez les Capucins, ils vont jusqu'à la rue René Lénaud, les Capucins. Et rue René Lénaud, à côté, mitoyenne, les Ursulines. Les Ursulines qui s'installent là, elles s'installent. Voilà, bon, les Ursulines, bon, elles s'installent, on passe. Bon. Pendant que j'y suis, je vous montre tout de suite. Là, vous avez un autre couvent qui s'installe au 17e, les Bernardines. Ce sont des cisterciennes, les Bernardines. Et c'est pour ça que l'église que vous avez maintenant, qui menace ruine, qui est fermée, c'est l'église Saint-Bernard. L'église Saint-Bernard, c'est une paroisse du 19e. Il n'y a plus de Bernardines, c'est fini, il n'y a plus de cisterciennes, c'est fini. Mais, quand on a construit l'église, la nouvelle paroisse, on a donné le vocable de Saint-Bernard en souvenir des religieuses Bernardines. Et puis il y a un couvent, il ne faut pas que j'oublie. Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la rue Néret aujourd'hui. Vous avez un couvent qui s'installe au 17e, au 18e, pardon, mais il était là au 17e, les religieuses du Bon Pasteur, d'où la rue du Bon Pasteur, voilà, qui se trouve par là. Les religieuses du Bon Pasteur, elle récupère ce qu'on appelle les filles repentantes ou repenties. Voilà. Bon. Repentantes ou repenties. Donc, et elles sont là, et au 18e, elles s'installent au-dessus de la déserte, c'est-à-dire au-dessus de l'amphithéâtre. Parce qu'il y aura une caserne du bon pasteur à l'emplacement, c'est pour ça que je vous le dis, c'est très important. Bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien du tout. Si j'ai oublié un couvent très important, vous êtes ici, donc vous montez la côte Saint-Sébastien sur la gauche, et vous êtes à droite, vous allez prendre le chemin des Fantasques, voilà. Et là, vous avez un couvent qui s'appelle le couvent des Collinettes. Les Collinettes, elles s'installent ici, alors c'est dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, en 1661, les Collinettes. Et pourquoi s'appellent-elles Collinettes? Parce qu'elles sont installées par la famille de Coligny. Et en fait, ces Collinettes, c'était des franciscaines. Voilà, des franciscaines du tiers ordre de Saint-François. En fait, elles avaient été récupérées par la famille de Coligny, et elles habitaient dans le Jura, à Vergeon. Voilà. Et donc, de Vergeon, le troisième marquis de Coligny, va donc les installer à Lyon, dans un tènement qui est vide, il n'y avait rien, hein, vide, ici, et voilà, et vont avoir un très grand couvent, donc, qu'elles vont construire au 17e pour la chapelle, regardez ce qu'il en reste, voilà la chapelle, ce qui est fermé, et au 18e, elles vont construire une magnifique résidence au 18e, que vous avez là. C'est ce qu'on appelle la résidence Villemanzy aujourd'hui. D'accord? Voilà. Donc elles ont une magnifique vue. Hein, voilà. Bon. Voilà, ce sont les Collinettes. Voilà. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne pense pas. Alors oui, si, j'ai oublié quelqu'un. Non, je n'ai pas oublié. Non, ça va très bien. Voilà. Je n'ai pas oublié. Alors, nous sommes au 17e. Donc il y a une reconquête catholique. C'est très important. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un séminaire qui va se fonder chez les oratoriens. Les oratoriens sont des éducateurs. Hein. C'est un peu les concurrents des jésuites. Hein. D'ailleurs, quand les jésuites vont être expulsés à Lyon, on va leur donner le collège de la Trinité. Hein. Ils vont remplacer donc les jésuites. Voilà. Mais on n'en est pas encore là. Hein. Alors donc, j'en suis où? J'en suis au XVIIe siècle. Les oratoriens ouvrent un séminaire donc dans leur clos. Ils végètent un peu, le séminaire. Et à ce moment-là, on a un archevêque de Lyon qui s'appelle Camille de Neuville. Donc Camille de Neuville, vous allez deviner, c'est le fils de Charles de Neuville et de Jacqueline de Harlay. Voilà. Donc son grand frère, c'est Nicolas de Neuville. Et Nicolas de Neuville, c'est celui qui est le petit, c'est celui qui est le premier duc de Villeroy, c'est celui qui a été choisi, c'est un peu le protégé de Mazarin, et c'est lui qui est l'éducateur, si on peut dire, le gouverneur du petit Louis XIV. Et donc, comme il n'a pas le temps de venir à Lyon, on a nommé Camille de Neuville, qui est dans les ordres, donc il va être nommé archevêque de Lyon, mais il a été nommé aussi lieutenant général de Lyon. Ça veut dire qu'il a tous les pouvoirs, spirituels et civils et militaires. Et de 1600, je crois, 48 à 1698, 93, 1653, 1693, pendant 40 ans, c'est lui qui dirige Lyon. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il voit que le séminaire oratorien végète. Et Camille de Neuville, l'archevêque, va faire venir des Sulpiciens. Il va donc fonder le séminaire des Sulpiciens, qu'il va appeler séminaire Saint-Irénée. Et où est-ce qu'il va l'installer? Il va installer justement à la place Croix-Paquet. Quand vous prenez le métro place Croix-Paquet, vous êtes à l'ancien emplacement du séminaire Saint-Irénée. Et le séminaire Saint-Irénée a donc été ouvert par Camille de Neuville. Et bien il a été ouvert par Camille de Neuville, voilà. Et il a été ouvert en 1667, voilà. Et ce séminaire va durer jusqu'à la Révolution. Ce séminaire Saint-Irénée, donc la Révolution, tout est chassé. Il pourra récupérer ses bâtiments au 19e siècle, mais comme les bâtiments sont vraiment en très mauvais état, il va déménager et on va construire vers 1850 à peu près le séminaire Saint-Just, qui est devenu le lycée Saint-Just aujourd'hui. Parce que séparation de l'Église et de l'État, il a été confisqué et c'est donc le lycée Saint-Just qui s'est installé à la place du séminaire Saint-Irénée. Voilà, bon. Alors, où j'en suis? J'en suis toujours au 17e siècle. Il faut que j'avance, voilà. Bon. Mais ça va quand même, voilà. Bon. On n'est pas marre, pas encore. Bon, voilà. Alors, non, parce que je vous demandais tout ce qui a disparu quand même. Bon, voilà. C'est quand même intéressant de savoir tout ce qu'il y avait avant. Bon, voilà. Alors maintenant, deux trois petits détails sur des embellissements de couvents. Parce que ça, on va en parler. Vous avez reconnu, vous êtes place des Jacobins. Nous sommes place des Jacobins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé place des Jacobins? Ben, les Dominicains, ça va très bien. Seulement pendant les guerres de religion, le baron des Adrets et les protestants ont tenu la ville de Lyon pendant un an. 1562-1563. En entrant dans la ville de Lyon, les protestants vont piller tous les monastères et les églises. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les réparer. C'est pas compliqué. Donc les religieux et les paroissiens vont réparer leurs églises, restaurer tout ce qui a été abîmé, et c'est à ce moment-là que les dominicains en profitent pour construire une belle façade à leur église. Donc quand vous êtes là, vous regardez vers la place Bellecour. D'accord ? Vers la place Bellecour, la rue qui part ici, c'est la rue Saint-Dominique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire la rue Émile Zola. D'accord ? Voilà. Bon, la rue Émile Zola. Oui, ça marche. Pardon. Et à gauche, eh ben, elle n'y est pas encore. Ça sera la rue Gasparin. La rue Gasparin, elle part derrière. Voilà. Bon. Voilà, donc c'est intéressant. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Parce que, les carmélites, comme c'était une famille parisienne, on avait fait une très belle façade à leur église, tout à fait 17e. Les dominicains ont peut-être trouvé que finalement leur église était un peu tristounette. Le gothique devenait un peu démodé. Donc ils ont fait faire une belle façade par un architecte parisien qui n'a pas dû venir à Lyon. Il a dû envoyer le dessin. Il s'appelle Antoine Lepautre. Antoine Lepautre, il a dessiné la façade du couvent des Jacobins et ils l'ont construite entre 1657 et 1674 à peu près. Voilà, quelque chose comme ça. Bon. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Les bénédictines de la place des Terreaux. Leur couvent a été entièrement pillé pendant les guerres de religion, entièrement pillées. Donc elles vont reconstruire un magnifique couvent qui est un véritable palais. C'est un palais, d'ailleurs on l'appelle le palais des Beaux-Arts. Voilà. Bon. Et ce couvent va être reconstruit sur les plans d'un architecte, et elles vont faire venir un Avignonnais qui s'appelle François Royer de la Valfenière. Donc c'est assez italien ce que je vous montre, par rapport, j'allais dire, au style parisien. On se voit devant un palais romain. La façade est assez baroque, avec cette espèce de rythme un peu différent, vous voyez, alternance de fronton cintré, fronton triangulaire, vous avez un espèce de fronton qui n'est pas un fronton d'ailleurs, c'est plutôt un étage attique, voilà. Donc il y a un rythme irrégulé sur la façade, et à l'intérieur, vous avez une cour, vous connaissez la cour avec les arcades, je vous le remonte parce que vous allez voir qu'il y a un projet qui avait germé dans l'esprit des Lyonnais, début 19e, pour transformer tout ça en un, j'allais dire, presque un lotissement, voilà, voilà. Oui, il y avait un projet, voilà, bon. Pendant que j'y suis, je vous montre le couvent des Célestins qui va disparaître avant la Révolution, mais je vous montre quand même parce qu'il y a un énorme couvent de rénovation, un énorme mouvement de rénovation des couvents en centre-ville. Ça, c'est la façade des Célestins, telle qu'elle va durer jusqu'à ce qu'on la démolisse en 1780-90 à peu près. Donc c'est une façade qui était magnifique. Voilà. Donc, les Célestins, pareil, leur couvent complètement pillé pendant les guerres de religion et pendant l'occupation du baron des Adrets et de la mairie protestante pendant un an, 1562-1563. Donc ils vont refaire leur couvent en 1721. Pas de chance, ça brûle. Bon, bah écoutez, ils vont recommencer. Et en 1744, voilà ce qu'ils vont construire par un certain Jean-Baptiste Masson. Jean-Baptiste Masson, donc vous avez la chapelle et vous avez un magnifique couvent. Ça fait très 18e, hein. Une grande abbaye, hein, un grand couvent 18e, voilà ce que les Célestins donc vont avoir. Voilà. Et puis, j'arrive à la Révolution, dernier embellissement de couvent, cette fois-ci au 18e, les oratoriens, qui sont installés rue René-Lénaud, ou rue de la Vieille Monnaie, comme vous voulez, avaient donc leur chapelle, mais ils n'avaient pas encore fait construire la façade. Alors, il y avait un mur, bien sûr, mais il n'y avait pas de belle façade. Et ils vont décider de faire construire la façade au 18e. Et cette façade, elle a été construite, alors que je ne me trompe pas, celle-ci, c'est celle de Toussaint-Noël-Loyer, 1756. Une très belle façade, hein, magnifique. Hein. Bon. Et cette façade, elle fait un peu démodée quand même. Hein. Elle fait un peu 17e. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, avec cette espèce de partie étroite en hauteur, et puis de partie large en bas, ça fait un peu romain. Mais il y a les grands pilastres très jolis, cannelés, magnifiques. Il y a une porte sculptée qui est absolument magnifique. Au-dessus du porche, il y avait bien sûr une sculpture qui a été martelée à la Révolution. Je vous rappelle, en passant, tout le monde le sait, mais je vous le rappelle, que les encoches dans les pilastres, ce sont les boulets du siège de Lyon. Voilà. Voilà. Bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette façade? Oui, Toussaint-Noël-Loyer, qui est-il? C'est un collaborateur de Soufflot, que Soufflot a appelé pour l'aider. Et quand Soufflot va repartir à Paris en 1756, c'est Toussaint-Noël-Loyer avec Melchior Minet qui va prendre le chantier de l'Hôtel Dieu, que vous connaissez, voilà. Voilà, donc, voilà, bon. Et puis, vous avez un autre couvent très important, une seconde église qui se reconstruit, c'est la chapelle du couvent des Augustins. Vous avez une vieille église gothique, qui était un peu en loque, et ils décident de faire reconstruire leur chapelle. Donc leur chapelle, alors voilà, voilà le plan, ça c'est là, ce qu'on appelait la boucherie des terreaux. Hein, voilà. Voilà. Je ne parle pas de la boucherie des terreaux, mais puisque je vous la montre. Hein, voilà. Bon. Voilà, bon. Et donc ça c'est, là, c'est le plan de la nouvelle chapelle des Augustins. Les Augustins sont patronnés pour cette chapelle par Louis le Dauphin, c'est-à-dire le fils de Louis XV, le Dauphin. Il n'a jamais été roi parce qu'il est mort avant. Donc Louis le Dauphin. Donc elle s'appellera Saint-Louis, cette chapelle. C'est la chapelle Saint-Louis des Augustins. Et c'est une chapelle qui est très moderne. Très moderne. Elle est construite par un certain Léonard Roux, qui est architecte lyonnais. C'est une des premières églises, comment dirais-je, paléo-chrétiennes. C'est un nouveau mouvement. On est passé du baroque. Et en fait, curieusement, on a l'impression que lorsque les jésuites ont été expulsés en 1764, le style jésuite est parti avec eux. Et on a cherché autre chose. C'est un peu une métaphore, mais c'est un peu vrai quand même. Donc, on va faire quelque chose de différent, et on va s'intéresser aux sources du christianisme et aux églises paléochrétiennes. Et Saint-Vincent est une des premières églises où l'intérieur est paléochrétien, c'est-à-dire que vous avez un grand vaisseau avec des colonnes, et un attablement droit. Alors, c'est un petit Sainte-Marie-Majeure, si vous voulez, voilà. Mais il n'y a pas de coupole à Sainte-Marie-Majeure, voilà. Mais c'est un peu ça, c'est un peu paléo-chrétien. Voilà, Léonard Roux, 1759-69, tout à l'heure je vous montrerai donc la façade, parce qu'elle va changer, je vous en parlerai, voilà. Et donc, arrive la Révolution. Alors, arrive la Révolution, on passe là. Et qu'est-ce qui va... Donc, je ne ressors pas la loi confiscation donc, des biens du clergé en novembre 1789, il y avait déjà un certain ressentiment, 120 000 habitants à Lyon, les gens étaient comme des sardines dans le centre-ville qui était complètement, j'allais dire, bouché, embouteillé, etc. Et la confiscation des biens du clergé sera bien et bienvenue pour ceux, j'allais dire, qui le pensent. Voilà. Bon. Et alors, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à Lyon, alors je remettrai ça après, il y a un autre événement, alors l'autre événement qui est commun à toutes les villes de France qui ont une statue équestre, c'est que le 10 août 1792, à la chute de la monarchie, on va donc décider de démolir toutes les statues royales. Donc, alors, le temps que ça arrive de Paris à Lyon, la statue de Louis XIV, elle a été démolie, jetée par terre, je crois que c'est le 28 août 1792, voilà. Donc, ça, c'est la première chose, mais c'est commun à Paris, à Nantes, je crois qu'il y en a une d'ailleurs, c'est plutôt Rennes, Bordeaux, Montpellier, enfin, je passe, bon, voilà. Et puis après, il y a le siège de Lyon. Ça, c'est tout à fait particulier à Lyon. Et donc, le document que vous avez là, c'est la place Bellecour, telle qu'elle est en 1789, c'est-à-dire que la statue équestre de Louis XIV va disparaître en 1792, et les façades vont disparaître à la suite du siège de Lyon comme punition, en 1794. Voilà. Donc en fait, place Bellecour, aujourd'hui, vous avez une statue qui a été restaurée en 1824, par le maire qui s'appelait donc Lacroix-Laval, très conservateur, et avant, on avait restauré les façades. Voilà, donc Lyon a souffert de la Révolution, voilà, donc dans sa place Bellecour, mais j'avance, voilà. Bon. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tous les couvents sont confisqués, tous. Voilà, et ils sont tous vidés. Et à la suite, donc ils sont vides pour l'instant. Il faut leur trouver des affectations. Du jour au lendemain, on ne va pas tout vendre, c'est compliqué, voilà. Mais à la suite du siège de Lyon, on va chercher des endroits pour mettre des casernes. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une caserne à Lyon. Il y en avait deux en fait. Il y avait deux casernes. Parce que sinon, les soldats logeaient chez l'habitant. Voilà. Ça, c'était un peu la coutume, l'habitant. Voilà. Mais il y avait quand même deux casernes fixes. La première caserne, vous la connaissez, elle est là. C'est ce qu'on appelle la caserne de Serein. C'est le grenier d'abondance, c'est la Drac. Vous voyez, ce grand machin magnifique. Vous avez le pont, et puis juste le grand machin à côté du Fort Saint-Jean, ce grand bâtiment superbe. Donc il y avait une caserne qui était déjà là. Ça, c'est mon plan de 1700. Voilà. Il est un peu vieux, mais ça fait rien. Bon. Et puis. Il y avait une seconde caserne qui existait avant le siège de Lyon, au débouché du pont de la Guillotière. Voilà. Mais maintenant, il faut des casernes. Voilà. Donc, on va réquisitionner trois couvents pour des casernes d'infanterie. Alors, le premier couvent qui est réquisitionné, c'est celui-ci. C'est Sainte-Marie-des-Chênes, parce qu'il est vide. On va installer une caserne à Sainte-Marie-des-Chênes. Voilà. Voilà, Sainte-Marie-des-Chênes. Cette caserne à Sainte-Marie-des-Chênes. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire, Sainte-Marie-des-Chênes? Bon, alors, je regarde. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire, Sainte-Marie-des-Chênes? Eh bien, on installe la caserne après le siège de Lyon, donc c'est 1794. C'est une caserne d'infanterie. Mais après, on va construire un grand bâtiment, on va construire une boulangerie, trois moulins à farine, et en fait, on va y installer ce qu'on appelle les subsistances. Voilà. Voilà, donc ça sera les subsistances, et l'armée va rester là jusqu'en 1991. Voilà. Voilà, 1991, voilà. Et c'est pour ça que vous ne voyez plus la chapelle, elle a été démolie, bien sûr. Qu'est-ce qui vous reste? Eh bien, tout à l'heure, je vous ai montré un escalier. Il est dans le bâtiment. Et voyez, la restauration a montré en rose les restes de l'ancien couvent des Visitandines et en jaune, ce qui avait été construit par l'armée au 19e siècle. Et le grand bâtiment que vous avez devant vous, qui est assez beau d'ailleurs, hein, voilà, c'est 1840, voilà. Alors, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant. On avait, vous savez que quand même, autrefois, on ne jette pas. On démonte et on range en magasin. Voilà. Puis après, de temps en temps, les domaines vendent. Hein, ou pas. Voilà. Et donc, on a récupéré le portail de la chapelle des Visitandines. Et où l'a-t-on mis? À ce moment-là, on est en train de construire une nouvelle paroisse dans le 2e arrondissement, l'église Saint-François de Sales. Saint-François de Sales, en souvenir des Visitandines qui ont disparu rue Salat, vous allez voir pourquoi. Et l'église Saint-François de Sales, elle est construite sur un terrain où il y avait deux établissements. Il y avait d'un côté les filles repenties, et de l'autre côté, alors il y avait quoi? Les filles repenties, et les autres, c'était des recluses, enfin c'était un peu le même genre, hein, quoi. Recluses, filles repenties, elles avaient une chapelle commune, devinez à qui la chapelle était dédiée? Sainte-Marie-Madeleine, voilà. Bon. Donc Sainte-Marie-Madeleine, la patronne des filles repenties et des recluses, voilà. Bon. Et donc, Sainte-Marie-Madeleine, la chapelle, va être transformée à la grande église Saint-François de Sales. Voilà. Et sur le croisillon gauche, rue François Dauphin, si je ne me trompe pas, hein, oui c'est ça, rue François Dauphin, quand on rentrait, maintenant on rentrait dans l'église Saint-François de Sales, on a remonté le porche de la chapelle de Sainte-Marie-des-Chênes. Voilà. Donc ça, tout à l'heure vous avez vu un petit dessin, c'était un peu, etc. Et bien c'est ce porche-là qu'on a remonté. Voilà. Donc une caserne installée donc là. Bon. La deuxième caserne, où est-ce qu'elle est passée? Oui, c'est ça. La deuxième caserne, je prends mon machin, voilà. Elle est là. Elle était donc rue du Bon Pasteur. C'était les Dames du Bon Pasteur. Voilà. Celles qui récupéraient les filles repenties aussi, d'ailleurs. Bon. Vous êtes là, au-dessus du Jardin des Plantes. Voilà. Donc, vous avez un bâtiment. Ce bâtiment, en fait, c'est l'emplacement de l'ancien couvent du Bon Pasteur. Les dames s'étaient installées, les dames religieuses, en 1745. À la Révolution, elles sont chassées. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Rien. En 1794, on y installe une caserne d'infanterie, la caserne du Bon Pasteur. Et le Bon Pasteur est resté combien de temps? Longtemps. Et ils vont rester jusqu'en 1948. Alors, vous savez qu'en général, vous regarderez, quand l'armée s'en va, elle rend le terrain à l'ancien propriétaire. Donc, c'était la ville de Lyon. Donc Sainte-Marie-des-Chênes, quand l'armée est partie, elle a rendu à la ville de Lyon, donc... Oui, je ne vous l'ai pas dit. Elle a rendu à la ville de Lyon. Je ne vous ai pas tout dit, là. Je reprends. Je fais un peu l'esprit de l'escalier. Voilà. Bon. Quand l'armée est partie, Sainte-Marie-des-Chênes, elle a rendu à la ville de Lyon tout. Et la ville de Lyon va donc faire des travaux pour installer l'école des Beaux-Arts. C'est pour ça que depuis 2008, vous avez l'école des Beaux-Arts dans les anciennes subsistances. Voilà. Bon, voilà, je reprends. Alors, je me raccroche maintenant. Donc là, l'armée s'installe là, caserne du Bon Pasteur, jusqu'en 1948. En 48, elle rend à la ville de Lyon puisqu'elle s'en va. Et la ville de Lyon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait construire l'école des Beaux-Arts, la première école des Beaux-Arts. Parce qu'avant, l'école des Beaux-Arts était où? Il faut bien commencer par un sens, hein, parce que voilà. Elle était au Palais Saint-Pierre, voilà. Au Palais Saint-Pierre, voilà. Il n'y avait plus de place. Donc, quand les soldats s'en vont, donc, on va donc construire la caserne, l'école des Beaux-Arts. C'est un certain Paul Bellemin qui l'a construit. Et l'école est terminée en 1960, voilà. Et là, s'installe donc voilà, l'école des Beaux-Arts. Et l'école des Beaux-Arts est partie en 2008, puisqu'elle est allée aux subsistances. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé... Il y a des projets, j'ai encore regardé, il y a des projets, mais on n'a pas trouvé. Bon. Et puis il y a une caserne. Alors, il y a la caserne du Bon Pasteur, il y a la caserne donc, de Sainte-Marie-des-Chênes, et puis il y a l'autre caserne, je vais vous la remontrer comme ça, parce que j'avais plus de place, elle est là. La troisième caserne, c'est celle-ci. La caserne des Collinettes. Donc on va installer une caserne là, à l'emplacement des Collinettes. Donc, caserne d'infanterie. Et cette caserne des Collinettes, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, on va récupérer, quelques temps après, les locaux et on va installer un hôpital militaire. Et cet hôpital militaire, on va lui donner un nom, il s'appellera l'hôpital Villemanzy. Et l'hôpital Villemanzy, il s'est appelé Villemanzy en 1886, voilà. Et l'hôpital militaire est parti. Après, il y a eu une résidence universitaire. Et maintenant... C'est pas du tout universitaire. Hein. Enfin, c'est pas dans les prix. Enfin, ça dépend. C'est une résidence magnifique. Vous pouvez louer des studios, vous pouvez louer des appartements. Mais c'est pas tout à fait le tarif universitaire. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, donc là, par contre, en revanche, la chapelle, elle est fermée. J'ai jamais réussi à rentrer dedans. Et voilà, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a tout un tas de bazar, mais voilà. Bon. Et là, la résidence est magnifique, voilà. Dans un bâtiment 18e. Mais le jardin qui est devant, c'est un jardin public. Voilà. Et il y a le petit restaurant Villemanzy que vous connaissez. Voilà. Mais le jardin, c'est un jardin public. Voilà. Donc vous avez accès au jardin public sans problème. Bon. Où j'en suis? J'en suis là. Bon. Alors, j'en suis là, là, maintenant. Alors, maintenant, je vous montre un peu les récupérations. Voilà. On avait installé, non pas une caserne d'infanterie, mais l'armée avait récupéré l'ancien clos des Augustins. Et finalement, ce n'était pas très pratique, on avait déjà dissocié l'église. Hein. L'église, donc le temps passe, la révolution passe un peu, et donc on arrive début 19e, il y a le Concordat, hein, et finalement, on décide de démolir la vieille église Saint-Vincent. Il y avait une vieille église Saint-Vincent, c'était la paroisse du quartier, et on décide que cette église que vous avez là va devenir la nouvelle paroisse du quartier. Voilà. Et donc on l'appelle Saint-Louis-Saint-Vincent en souvenir de la vieille église Saint-Vincent. Saint-Louis-Saint-Vincent, voilà. Bon. Voilà. Et cette église Saint-Louis-Saint-Vincent, donc, ça va très bien, mais en 1800... Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, elle n'ouvrait pas... Vous voyez, vous avez ici, vous avez un plan. L'église donc, qui s'appelait Saint-Louis autrefois, hein, elle n'ouvrait pas directement sur le quai, il y avait une espèce de petit espace. Voilà le plan de l'église Saint-Louis des Augustins avant la Révolution. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans les années 1870-80, on décide de prolonger de tout ça pour que l'église ouvre sur le quai. Donc quand vous êtes là maintenant, vous voyez bien que la coupole n'est pas tout à fait dans l'alignement, ça tourne un peu. Et vous avez une entrée qui est assez futée, qui fait que lorsque vous rentrez, vous prenez les marches, puis après vous tournez un peu pour rentrer droit dans l'église. Voilà. Parce qu'il fallait que l'entrée se raccorde avec la ligne du quai qui était en biais. Voilà. Donc ça, c'est l'église Saint-Vincent. Mais qu'est-ce qui va se passer? En 1852, Lyon va absorber trois communes, Vaise, la Croix-Rousse et la Guillotière. Et à la Guillotière, il y a déjà l'église Saint-Louis de la Guillotière. Alors, on ne peut pas avoir deux églises Saint-Louis à Lyon. Donc, c'est à ce moment-là que l'église Saint-Louis va perdre son vocable et on va l'appeler l'église Saint-Vincent. Mais c'est l'ancienne chapelle Saint-Louis. Alors, à côté, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que, donc, à ce moment-là, donc, vous voyez, la caserne, ça ne marchait pas. Donc, on a rendu les terrains à la ville de Lyon. Et la ville de Lyon, en 1825, elle songe à ouvrir sur le legs du major Martin une école. Et donc, elle cherche des emplacements. Et finalement, elle va récupérer les anciens bâtiments des Augustins pour l'école de la Martinière. C'est une école de garçons, l'école de la Martinière. Et dans les anciens bâtiments de la Martinière, sur les terrains des Augustins, elle reconstruit des bâtiments et elle ouvre en 1834 l'école de la Martinière. Voilà. Et en 1900 à peu près, une certaine Madame de Cusieux, bienfaitrice de l'humanité, décide de financer une école Martinière fille. Et quand vous êtes là, vous êtes sur les anciens terrains des grands carmes des terreaux. Donc vous avez entre les deux, je ne sais pas quelle est la rue entre les deux, je ne sais plus, hein, parce que moi, toutes ces rues me dansent dans les yeux. Hein. Bon, voilà. Donc je sais que là, la photo, elle est prise rue de la Martinière, justement. Voilà. Puis vous avez vous avez le billard à gauche, là. Voilà. Hein, le billard. Et là, voilà. Donc en fait, vous avez les Augustins, la Martinière sur les Augustins, et puis pour l'extension de la Martinière, c'est sur l'emplacement d'une partie des anciens carmes. Voilà. Bon, on y arrive à peu près. Bon. Alors. Maintenant, on avance. Hein. Donc, après la Révolution, toujours, donc on est début 19e, qu'est-ce qui se passe? Donc, la ville va donc récupérer tout le clos des religieuses de la déserte. Et c'était grand, le clos de la déserte. Il y avait la partie plate, qui correspond à la place Satonnet aujourd'hui, hein, vous avez deviné, avec la rue Sergent-Blandan. Puis il y avait la partie qui montait. Et à ce moment-là, il va y avoir deux occupations. La partie plate, on va donc démolir les bâtiments, démolir la chapelle, et on va créer... C'est une belle place, hein, la place Satonnet, c'est très joli, hein. Il y a une espèce, c'est un certain Flacheron qui a donné un plan. Les maisons sont très régulières. Voilà. Et donc, c'est une place qui est créée, c'est une opération qui est faite donc par la ville. Et puis la partie qui monte, eh ben, ça tombe bien, on va créer le jardin des plantes. Donc on a créé le jardin des plantes. Et dans le jardin des plantes, alors, vous voyez, parce que c'était grand, hein, c'est un très grand emplacement. Le jardin des plantes, il a été créé en 1795, avec les plantes qu'on a arrachées chez tous les gens qu'on a confisqués à la Révolution. Voilà, bon, entre autres. Et puis d'autres plantes, mais il y a beaucoup de confiscations. Et dans ce jardin des plantes, le jardin des plantes va rester là, de 1796 exactement, à l'ouverture du parc de la Tête d'Or. Et donc, quand on va ouvrir le parc de la Tête d'Or, on va déménager le jardin des plantes, et on va même déménager quoi donc? Une orangerie qu'on avait construite à flanc, à peu près sous la montée des Carmélites. Il y avait une orangerie qui avait été construite en 1819. on va la déménager, on va la transporter au parc de la Tête d'Or, où elle est toujours. C'est celle du Jardin des Plantes, et on l'a agrandie de quelques travées à droite et à gauche. Quand vous allez au parc de la Tête d'Or, vous avez l'orangerie du parc de la Tête d'Or, c'est celle du Jardin des Plantes de 1810, pardon. Voilà. Quand même intéressant de savoir ça, ben, je trouve. Vraiment. Alors, les religieuses, elles avaient dans leur terrain, elles avaient l'amphithéâtre des Trois Gaules. Voilà. Alors, j'en parle pas parce que voilà. Mais vous comprenez pourquoi il y a quelques arbres un peu lépreux. Mais c'est pas fini. On va lui faire une belle entrée. Et donc ça, c'est l'entrée du Jardin des Plantes. Donc, le bout de la place, ça tenait. En fait, on se demande pourquoi il y a un escalier qui monte sur la rue du Jardin des Plantes. Parce qu'en fait, il n'y avait pas la rue du Jardin des Plantes à cette époque-là. Donc en fait, on allait directement de la place Satonnet au Jardin des Plantes. Et c'est comme ça que l'architecte a conçu une belle entrée pour le Jardin des Plantes. Un bel escalier. Et à droite et à gauche, vous avez des espèces de bastions. Des bastions, je vais mettre au fini. Et ces bastions, ils sont gardés par deux lionnes magnifiques qui ont été copiés sur un truc, c'est des idées un peu incroyables, sur la fontaine de Sixte Quint à Rome. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, la fontaine de Sixte Quint qui est vers l'ancienne, enfin la grande gare de la fontaine de Sixte Quint, quoi. Voilà. De Sixte Quint, voilà. Voilà, vous irez voir. Voilà. Alors, l'hôtel de ville, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien à l'hôtel de ville, mais il se passe quelque chose de très important. Je ne parle pas des statues qui ont été enlevées, etc., Louis XIV, non. Mais qu'est-ce qui se passe? En 1793, on a été puni, vous avez bien compris. Donc, on n'a plus de maire. On n'a plus de maire, voilà. Bon. La ville est gérée, je n'ai pas trop cherché, mais elle est gérée. Bon. En 1800, Bonaparte nomme le premier préfet. Donc on a un préfet. Donc ça tombe bien, comme il n'y a pas de maire, on va le loger à l'hôtel de ville. Voilà. Et le premier préfet s'appelle Raymond de Verninac, d'ailleurs. C'est le beau-frère du peintre Delacroix. Il a parlé il n'y a pas très longtemps. Donc son épouse, c'est la sœur de Delacroix. Il y a un très beau tableau, Madame de Verninac, peinte par Delacroix, peinte par David. Mais elle, c'était la sœur de Delacroix. Bon. Le préfet s'installe à l'hôtel de ville. Voilà, tout simplement. Pas compliqué. Voilà. En 1805, on lève la punition, on va créer un maire. Voilà. Et donc à ce moment-là, bah écoutez, le préfet et le maire dans la même mairie, pourtant elle est grande, ça ne va pas très très bien. Donc on cherche une nouvelle préfecture. Et on va la trouver où? Eh bien, le couvent des Jacobins était vide, il n'y avait rien. On va installer la préfecture dans l'ancien couvent des Jacobins. Et là, vous êtes place des Jacobins. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc en fait, on va faire des travaux entre 1810 exactement et quelle année? Alors la préfecture, où est-ce qu'elle est passée? Là. Entre 1810 et 1819, on va demander à un architecte qui s'appelle Antoine-Marie Chenavard, à ne pas confondre avec Paul Chenavard qui est le dessinateur. Antoine-Marie Chenavard, c'est l'architecte. Et Antoine-Marie Chenavard est chargé d'aménager, de démolir l'église des Jacobins, donc elle est démolie. Et derrière, vous avez donc, ça a grandi la place, on va dire. Voilà. Bon. Et puis donc, derrière, vous avez donc l'ancien claustral des Jacobins qui est transformé en préfecture. Donc on fait une espèce de, vous voyez, une espèce d'hôtel particulier avec une grande cour. Deux bâtiments à côté, et on ferme par une jolie grille. Et le préfet s'installe ici en 1829. Il y avait donc le maire à l'hôtel de ville, et il y avait donc le préfet, et c'est pour ça que vous avez la rue de l'ancienne préfecture qui va de la place à la Saône. Voilà, c'est tout, c'est pour ça. Le préfet s'installe là, 1831, qu'est-ce qui se passe? C'est la première révolte des Canus. Donc les Canus, ils habitaient sur les nouveaux terrains qui avaient été lotis dans des grands immeubles avec des grandes hauteurs plafonds avec leurs ateliers sur les pentes de la Croix-Rousse et sur le plateau jusqu'au rempart qui avait été démoli parce que c'était déjà le boulevard de la Croix-Rousse. On y arrive. Bon. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Canus vont, dévaler la pente et ils vont bloquer en partie le préfet dans la préfecture. Et on s'est dit, l'endroit est dangereux. Voilà. L'endroit est dangereux. Voilà. Et on a commencé à chercher un nouvel endroit pour la préfecture. Voilà. On ne l'a pas trouvé tout de suite. Et qu'est-ce qu'on va faire? En 1852, on va tout simplement ramener le préfet à l'hôtel de ville. Voilà. Donc on avait de nouveau donc, à l'hôtel de ville. Donc ça veut dire que... Est-ce qu'il est rentré à l'hôtel de ville tout de suite? Oui, je crois. Il va rentrer. Non, il est resté encore longtemps. Il est ramené à l'hôtel de ville en 1852. Voilà, en 1852. Donc il y avait un maire quand même. Voilà. Bon, je passe. Voilà. Et regardez maintenant... Alors, quand on va ramener le préfet à l'hôtel de ville, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va démolir la préfecture. On va démolir la préfecture. Sur la photo précédente, vous voyez, vous avez la maison. Cette maison, là, comment s'appelle le marchand? Vous savez, des étiquettes, là, des insignes, là. Bon. Voilà. Cette maison, là, voilà. 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 Bon. Ben, c'est celle-ci qui a été un peu agrandie, vous voyez? Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va démolir la préfecture. Voilà. Et on va donc tailler dans l'ancien clos définitivement des Jacobins, on va tailler la rue Gasparin au milieu et on va tailler la rue des Archers de l'autre côté. Voilà. Et on a comme ça. Il n'y a plus rien, les Jacobins, il n'y a plus rien. C'est terminé, voilà. Alors maintenant, alors il y avait déjà 1790, il n'y avait plus rien au Cordelier. C'était fini, il n'y avait déjà plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vendu en lot tous les bâtiments conventuels, et il ne restait plus que l'église des Cordeliers. L'église des Cordeliers, le cardinal Fesch, parce qu'il faut quand même dire que le cardinal Fesch, c'est l'archevêque de Lyon. Donc il n'est pas venu souvent à Lyon, mais il a été excellent comme gestionnaire de la ville de Lyon au niveau, j'allais dire, spirituel. Bon. Le cardinal Fesch a demandé à récupérer Saint-Bonaventure, qui ne s'appelait pas Saint-Bonaventure, mais qu'on va appeler donc, on va créer une paroisse de jour qu'on appelle donc Saint-Bonaventure. Voilà. Bon. Et cette église Saint-Bonaventure, elle va servir à la deuxième révolte des Canuts. Ils vont se cacher, si on peut dire, ou se retrancher dans l'église Saint-Bonaventure. Et pour les faire sortir, il va falloir pilonner un peu la façade. Et c'est pour ça que la façade de Saint-Bonaventure a été entièrement refaite entre 1857 et 1861. Donc elle a été vraiment enjolivée. Et en fait, ce n'était pas du tout la façade du Moyen-Âge. De toute façon, les franciscains, c'est un couvent pauvre. Hein. Donc ce n'est pas un couvent qui cherche à étaler sa richesse. Voilà. Donc Saint-Bonaventure est devenu comme ça au XIXe siècle. Alors maintenant, encore une histoire d'occupation de caserne. Donc, vous êtes ici rue Salat. Et vous êtes ici devant l'ancien couvent où est mort Saint-François de Sales. Donc, on a donc confisqué à la Révolution tous les couvents. Donc, les visitantes dignes de la rue Salat sont chassées. Elles sont chassées et le couvent est vide. Et on y a installé un manège d'équitation pendant quelques temps. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? En 1828, on voudrait une gendarmerie à cheval. Bon. Et donc, on va donc tout raser et on va construire ce bâtiment qu'on appelle la gendarmerie à cheval, qui a dû être fini, je crois, en 1834. Et on y a installé ce qu'on appelait l'ancienne gendarmerie à cheval. Voilà. Elle fait très florentine, hein, finalement. Un peu florentine, voilà. Un bâtiment un peu florentin. Voilà. Bon. Alors, maintenant. Alors, qu'est-ce qui a disparu complètement? Ben, la platière. On a tout démoli. Il ne reste rien. Cette immense église qui ressemblait un peu à Saint-Martin-des-Nez, c'est fini. Il n'y a plus rien. La platière a disparu. Les grands carmes des terreaux, il ne reste rien. Il reste un pilier. Il reste un pilier. Est-ce que vous le voyez, le pilier? Voilà, il reste un pilier, regardez, il est là le pilier. Voilà, voilà. On a fait des travaux il y a 20 ans, je crois. On a fait des travaux, on a dégagé des maisons, on a trouvé un vieux pilier. Ce vieux pilier, c'était un des piliers du cloître qui avait été reconstruit, je crois, au XVIIe siècle. Là, vous êtes où? Vous êtes rue de la Martinière. Là, vous avez la rue Terme qui monte. Et là, cette petite place s'appelle Place de la Paix. C'est le seul élément qui vous permet d'évoquer le couvent des Carmes. Le couvent des Feuillants, il en reste pas mal, finalement. Vous avez donc le couvent des Feuillants, il donnait à la fois donc sur la colline et puis il donnait sur le Rhône. Il n'y avait pas encore le quai Lassagne qui avait été construit à l'époque, ça va être construit après. Là, c'est la cour, c'est l'ancienne cour. Et vous voyez, il y a quelques arcades qui font penser à un cloître. Dans cette cour, on l'appelle la cour du Moirage. Bref, ça s'appelle comme ça. Et en fait, il y a des détails drôles. Donc tout ça, ça a été vendu, tout l'église, il n'y a plus rien, c'est tout propriété privée. Et en fait, à la fin du 18e, les Feuillants avaient besoin d'argent quand même. Ils ont loué des ateliers à des artisans. Il y a un Anglais qui a débarqué là, il s'appelait John Badger. John Badger, j'ai pas oublié son nom, parce que quand j'ai parlé un jour à quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est mon arrière-arrière-grand-père. C'est incroyable. Voilà. Bon. Donc, elle m'a dit, oui, j'ai un arrière-arrière-grand-père anglais, il est venu à Lyon en 1700, je sais pas quoi, il a loué un truc aux Feuillants. Ben, j'ai dit, ça marche. Voilà. C'est bien ça. Et donc, il avait donc ouvert un atelier de moirage. D'où le nom de la cour s'appelle la cour du Moirage. Et il y a toujours, bien sûr, propriété privée, le magnifique escalier. Alors, si vous voulez le voir, maintenant, c'est tout bouclé. Il faut y aller le matin, très tôt, à 7h30, quand passe la poubelle. Voilà. Mais c'est vrai. C'est vrai, quand passe la poubelle, vous pouvez rentrer. Montée des Carmélites, qu'est-ce qu'il reste? Strictement rien. La montée des Carmélites, vous passez entre le 8 et le 20 sur la gauche, montée des Carmélites, il ne reste rien. Tout a été démoli, on a ouvert des rues. On a démoli la chapelle en 1822. Comment le sait-on? Pourquoi? Parce qu'il faut aller dans l'église Saint-Bruno des Chartreux. Dans l'église Saint-Bruno des Chartreux, il y a une plaque. Quand vous montez à droite, juste avant le chœur, il y a une plaque. Cette plaque, c'est le souvenir des Villeroy. Quand on a démoli la chapelle des Carmélites, on a donc récupéré les restes qui avaient peut-être été profanés, disons-le carrément, les restes des Villeroy, et cette plaque, elle évoque. Donc j'ai donc appris, je ne savais pas, que les deux archevêques avaient été enterrés dans la chapelle. Je pensais que les archevêques avaient été enterrés à Saint-Jean. Voilà. Donc les deux archevêques de Villeroy, il y en a eu deux. Il y a eu Camille, le lieutenant général, qui a été enterré là, Camille, hein, 1653, il est mort en 1793, Camille. Et puis le second, il s'appelle François-Anne, je crois. François-Paul de Neuville, il était archevêque au 18e. Et puis il y a le reste des autres Villerois. Voilà, et il y a écrit quoi donc ? En 1822, on a installé, récupéré le reste en 1822. C'est tout ce qu'on peut évoquer, donc voilà. Voilà, bon. C'est pas moi, voilà. Bon. Alors, là, les Chartreux, tout a été vendu, tout a été loti, mais on a récupéré l'église pour en faire une paroisse Saint-Bruno des Chartreux. Voilà. Et là, je vais être un peu plus rapide, là, quand vous êtes place des Chartreux, c'est l'ancien grande cour avec les chapelles, les 25 cellules des Chartreux. Il y avait 25 cellules des Chartreux. Il en reste quelques-unes, j'ai une horrible photo, voilà, je ne suis pas montée, enfin vous m'en voulez pas, je ne suis pas montée, refaire ma photo, voilà. Vous êtes impasse des Chartreux, à gauche, l'école des Chartreux, au fond, quelques petites maisons rapetassées, mais sur la droite, il y a une ou deux petites maisons, voilà, la place des Chartreux est devenue une place publique, et puis, dans l'ancien bâtiment, le cardinal Fesch, ça c'est intéressant, a fondé la Société des Pères de Saint-Irénée, mais ça c'est une autre histoire, et voilà, j'en parlerai pas. Les dames de Saint-Benoît, sur le quai Saint-Vincent, vers le 31, etc., elles ont été chassées, tout a été démoli, ça a été vendu à un promoteur qui a donc fait des appartements, voilà, et voilà ce qu'il en reste. Donc, vous êtes quai Saint-Vincent, l'ancien couvent des dames de Saint-Benoît. Voilà. Le clos Saint-Benoît, exactement, le clos Saint-Benoît. Mais je vous montre cette photo parce que dans les terrains des religieuses de Saint-Benoît, qui montaient assez haut vers ce qu'on appelle la place Rouville aujourd'hui, vous voyez, cette grande maison magnifique, place Rouville, qui est une maison de canuts, elle a été construite sur les anciens terrains des dames de Saint-Benoît. Voilà. Et mitoyenne, l'Annonciade, mitoyenne, les Carmélites, mitoyenne, les Chartreux, et mitoyenne, les visitants d'île. Voilà. Bon, j'avance un peu, voilà. Bon. Et je n'ai peut-être pas le temps de tout détailler, parce que j'ai peut-être un peu marre, mais vous voyez ici, vous avez quand même un plan. C'est un plan, voilà, c'est intéressant, c'est un plan du 1830 ou 1840. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les rues qui ont été taillées. Toutes les rues qui ont été taillées. Par exemple, quelques exemples. Vous voyez, là, c'est la rue René Leno, donc elle existe, avec donc l'église devenue Saint-Polycarpe, paroisse Saint-Polycarpe. Au-dessus, vous avez maintenant la rue Burdeau. Elle n'existait pas. Vous avez au-dessus la rue Humbert Colomès. Elle n'existait pas. Au-dessus, vous avez la rue des Tapes-Claudiennes. Elle n'existait pas. Tout ça, c'est taillé dans le clos, donc, des oratoriens, en dessous. Là, la place du Forêt, avec la rue Saint-Polycarpe et la rue Rosier, n'existait pas. C'était taillé dans le clos des Capucins et des Ursulines. Et maintenant, quand même, ce qui est sympa, là, c'est le plan du jardin des Capucins. Et regardez ce que ça a permis de faire. En fait, on a repris le jardin des Capucins, on a repris le rondeau avec le petit bassin qu'ils avaient au milieu, on a agrandi un peu le bassin, on a agrandi un peu les allées, et c'est comme ça qu'on a fait la rue des Capucins, qu'on a fait la place du Forêt qui est circulaire, et qu'on a coupé dans l'autre sens, et qu'on a donc fait la rue Saint-Polycarpe, et vous avez la rue de l'Abbé Rosier, et Saint-Polycarpe que vous voyez aujourd'hui, on ne la voyait pas autrefois. Saint-Polycarpe ouvrait devant un mur qui appartenait aux Capucins. Donc en fait, à la limite, cette maison a été construite début 19e, celle-ci c'est une vieille maison, il faudra un peu la raboter à la limite, voilà, pour permettre d'avoir une belle vue sur Saint-Polycarpe. Voilà. Vous voyez, voilà. Donc en fait, ce qu'il y a d'intéressant, et c'est comme ça que vous avez désormais des magnifiques aménagements au 19e. Ça, c'est la place Chardonnay. Et vous admirez tous les escaliers qui descendent de la Croix-Rousse. Je ne parle pas de la cour des Voraces, vous n'en finirez plus, etc. Tout ça. Vous avez le passage Tiafé, etc. Tout ça, c'est les anciens couvents qui ont été lotis. Et ça s'est fait entre 1800 et 1825, à peu près. Voilà. À peu près dans ces années-là. Voilà. Bon. Et j'ai mis cette photo parce que j'ai le vertige. Voilà. C'est pour vous montrer. Parce que tout ça, ça a bénéficié à des propriétaires qui ont construit des ateliers pour les canuts. Parce que les canuts, ils étaient installés au pied dans la presqu'île, vers Saint-Georges. Et en fait, ils avaient des ateliers, vous ne voyez rien. Donc en fait, de 1800 à 1850, les canuts vont s'installer sur les pentes, dans des immeubles immenses. Là, vous avez la rue Humbert-Colomès. Non, c'est la rue Burdeau à gauche. Et la rue, c'est peut-être bien la rue Humbert-Colomès, bon, c'est une des deux. Hein. Et puis vous avez la côte Saint-Sébastien, voilà, tout simplement. Voilà, bon. Voilà. Et vous voyez, la rue des Fantasques, c'était les anciens clos des Collinettes, elle est là, la rue des Fantasques. Hein. Elle est là, on pourrait dire le promenoir des Fantasques. Et bien vous avez des immeubles magnifiques, qui sont des immeubles de canuts, voilà, tout simplement. Le séminaire Saint-Irénée, on n'a rien réussi à en faire, Finalement, ils se sont réinstallés au 19e, ils étaient mal installés, ils sont partis donc de l'autre côté du Rhône. Et qu'est-ce qu'on a pu en faire? Rien du tout. Le terrain était trop pentu pour en faire de l'urbanisation. Et finalement, c'est la ficelle qui est passée là, et c'est la place Croix-Paquet, avec la station de métro, qui en a profité. Tout ça, donc, a été démoli. Et je termine par les deux grandes percées de Lyon au 19e. Vous avez un plan qui est très intéressant. Donc, révolte de Décanu en 1831. Deuxième révolte de Décanu en 1834. Et à ce moment-là, le gouverneur de Lyon se réunit avec le préfet et le maire, et ils ont dressé un plan des insurgés et de la troupe. Alors, en bleu, les soldats, la troupe, en rouge, les insurgés. Et on s'est rendu compte que, bon, ça, d'accord, mais le danger, c'était qu'il y avait une poche de possible qui pouvait se renouveler d'insurgés entre l'hôtel de ville et la préfecture. Et oui, l'hôtel de ville, il est là, la préfecture, elle est là, et il y a des poches. Et vous voyez qu'en rouge, peut-être bien c'est les églises, mais dans les églises, il y avait les insurgés, Saint-Nizier et Saint-Bonaventure. Donc, on s'est dit, il faut absolument percer ce tissu urbain pour que la troupe circule et pour que les insurgés ne puissent plus se cacher dans les rues que les soldats bretons ne connaissent pas. Voilà. En gros, c'était ça l'idée. Et donc, la première opération, c'est ce qu'on appelle la rue centrale. Mais la rue centrale qui va être ouverte, qu'on appelle, si vous voulez, aujourd'hui, la rue de Brest et la rue Paul Chenavard. C'est la première opération. Et c'est intéressant de voir que cette première opération, elle part de la place de la préfecture. Donc elle part de la place des Jacobins. Et elle va monter vers la place de enfin, la place des, on appelle la place des terreaux, où il y a l'hôtel de ville. Voilà. Bon. Et donc, mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que quand on va commencer les travaux en 1847, en fait, on a pris un vieux projet. On a pris le projet de Antoine Morand. Parce que là, c'est le plan de Antoine Morand de 1766 que je vous montre. Voilà. Et dans le plan de Antoine Morand de 1766, il avait non seulement prévu l'agrandissement de la ville de Lyon à la Guillotière, parce qu'à cette époque-là, c'était la Guillotière, je vous signale, c'était pas Lyon. Mais il avait prévu des percées. Et les percées que Morand a prévues, elles ont presque toutes été réalisées au 19e siècle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la première percée, c'est la percée de la rue centrale. Vous voyez ? On s'est déjà agrandi. Voilà. Bon. Donc en fait, vous l'avez très bien ici, place des Jacobins, voilà. Et vous voyez, on va monter tout droit jusqu'à la place des Terreaux. Et voilà. Et ça s'est fait par plusieurs tronçons. À partir de 1847. Et là, vous avez une photo de la place, de la rue centrale, c'est-à-dire la rue de Brest, on va y arriver, vous voyez. Vous êtes place des Jacobins, c'est la rue de Brest, vous voyez les maisons, voilà. Voilà. Alors là, c'est encore un peu lépreux. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait pareil. Vous reconnaissez les maisons de droite de 1847-50, vous voyez. À gauche, il y a la même maison, mais là, on a dégagé, et du coup, il y a une maison qui se trouve un peu perdue toute seule, vous voyez. Celle-ci, en fait, c'est qu'on a taillé de l'autre côté, après, pour dégager l'entrée sur la rue Mercière, voilà. Donc ça, c'est la première grande percée. Et cette percée, elle est toute droite, bien sûr, parce que ça sera la politique que va appliquer systématiquement le baron Haussmann, quelques temps après. Et si vous regardez bien, là, vous êtes rue Paul Chenavard, enfin, rue de Brest, exactement, encore. Et en fait, vous avez Saint-Nizier, là. Et si vous regardez bien, il y a des vieilles maisons, parce qu'on a essayé de récupérer... Il y avait des tracés droits, il y avait quand même des rues qui étaient droites par endroits. Donc là, vous avez des vieilles maisons du 16e et du 17e, tout simplement. Voilà, bon. Voilà, donc ça a très bien marché. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On arrive en 1852, Napoléon III monte sur le trône, et on va nommer, il y a un préfet qui va être nommé à Lyon, qui s'appelait machin truc de Vincent, voilà, bon. Et en 52, c'est ce préfet, et donc, on décide donc de percer le tissu urbain. Et la première opération, elle va être menée par le nouveau préfet qui est nommé en 1853, qui s'appelle Claude Marius Weiss. Il arrive, et donc il loge à l'hôtel de ville, on est en 53. On vient de récupérer en 52 la Croix-Rousse, Vez et la Guillotière. Et donc, on va percer, et voilà. Et la première opération, c'est ce qu'on appelle la rue impériale. Donc ça a dû être fait en 1856-60, ça a très très bien marché. Et donc, on décide de faire un grand couloir très large qui va donc des terreaux à la place Delcourt, mais il y avait un petit problème, parce que si on allait tout droit, parce que le baron Haussmann, enfin plutôt Weiss, c'est la politique de Haussmann, on va tout droit, voilà. Et on met en lien des monuments entre eux. Et quand on peut, on s'arrange pour qu'il y ait un joli dôme dans la perspective de la rue, parce que c'est mieux. Bon, comme ça. Bon, à Paris, c'est systématique. Voilà. Donc on va tout droit. Mais si on va tout droit de la place des terreaux, eh ben, on ne tombe pas place Bellecour. Donc il faut changer de sens. Et c'est pour ça qu'on a créé la place de la République. La place de la République a permis de changer le sens de la rue de la République. Alors, on arrive trop droit à place de la République. Là, on change de sens pour arriver bien d'équerre, place Bellecour. Voilà. Voilà. Et puis en même temps, on se dit, pour que vraiment rénover le tissu urbain, il faut faire un grand monument au milieu. Et le grand monument au milieu, c'est la Bourse. C'est la Bourse, vous voyez là, la Bourse. Ce magnifique monument. Alors voilà les travaux de la rue de la République. Donc ça a été... Alors, Claude Marius Weiss va faire venir... C'est un ingénieur des ponts et chaussées, polytechnicien, qui s'appelle Bonnet, qui va venir faire les travaux. Le plan, il est de René Dardel. Alors René Dardel a fait les plans, puis quand il a fini les plans, on lui a dit « c'est super ». Et en fait, ce n'est pas vous qui faites le plan d'exécution, parce qu'on a trouvé quelqu'un d'autre, un ingénieur. Donc Dardel a dit « bon, ben, je m'en vais ». Ben oui, on lui a dit « c'est bien ». Voilà, donc il est parti. Voilà la rue de la République. Mais on lui a donné comme lot de consolation la Bourse. Et c'est René Dardel qui a construit la Bourse. Voilà, donc c'est Bonnet qui a fait les travaux de la rue de la République et c'est Dardel qui a construit la Bourse. Ça a tellement bien marché qu'on a dit « on recommence ». Et donc, on a fait ce qu'on appelle la rue de l'Impératrice, c'est la rue Édouard Herriot. Et là, on s'est arrangé pour aller tout droit d'une seule traite, voilà. De telle façon de ne pas gêner les rues existantes, on est allé tout droit, on est parti du dôme de l'Hôtel de Ville, et à la limite, quand on se met pas mal, on arrive à voir le dôme de la Charité, voilà. Vous voyez, on arrive à aligner deux dômes, voilà. Et c'est comme ça qu'on a percé Lyon, et c'est comme ça que, j'allais dire, Lyon a pris le visage que vous avez aujourd'hui. Et je finis par cette belle photo, parce que ça tombe magnifique. C'est la rue Édouard Herriot, éclairée, voilà. La rue Édouard Herriot éclairée, eh bien écoutez, c'est la rue de l'Impératrice, quoi. Voilà, donc c'est la magnifique percée, voilà, du 19e, et voilà. Voilà, c'est fini, j'ai fini, voilà. On y est arrivé, voilà. Voilà, voilà.